Bon midi, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission. On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1 avec ma collègue de chaque midi, Pascal CV. Comment ça va, Spicy P?
Ça va très bien. Cool. J'espère que toi aussi.
Ben oui, t'avais-tu de quoi de spécial? TV?
OK, tu vois le petit look un peu plus télévisuel que radiophonique.
Ben oui, maquillée toute à la télévision. Wow!
Et puis j'avais un petit chemisier, mais là, le chemisier a pris le bord. Une fois rendu à la radio, on a pu bien se mettre une petite laine d'automne.
Mais là, pourtant, on est sur Twitch. Twitch.tv / BLVD / FM.
OK, je
venez voir Pascal CV maquillée comme si... elle travaillait à la TV présentement.
J'attendais la suite.
J'ai quand même resté poli.
Je ferai plus d'efforts pour toi dans l'avenir. Écoute, Jean-François, mais oui, c'est un petit tournage. On a encapsulé quelque chose, Marc-Antoine Reed, chroniqueur ici et moi, avec l'équipe de Plein Feu sur Québec pour en fin de semaine.
C'est bien cool.
Parce qu'on va officiellement remettre le chèque à la Fondation Cerveau la semaine prochaine.
Wow!
Puis on peut déjà dire qu'on a ramassé plus de 100 000 $.
Wow!
Puis on va donner la somme exacte lors de la remise officielle. Mais c'est ça, on est super heureux. On vous remercie absolument tous et chacun. Les petites sommes comme les sommes d'entreprise, comme tout a fait en sorte que maintenant, on a plus de 100 000 $ à offrir à la Fondation Cerveau la semaine prochaine.
Vous êtes extraordinaire. Félicitations. Quel beau défi que le défi du Kilimanjaro est tout simplement fabuleux. 100 000 $ pour la santé mentale. Wow, ça me touche infiniment.
Ici, dans notre ville.
Fist bump. Good job. Yes, sir. Je suis très fier de toi, Pascal. Très fier de toute l'équipe qui était avec toi dans ce...
C'est le cas de le dire. Travail d'équipe.
Capitaine Marc-Antoine Reed.
Oui.
On salue Joannie Fortin également de Weekend Radio, notre station sœur, qui a participé également au défi du Kilimanjaro. Je vous le rappelle... 418-971-1021 pour nous joindre par texto. On est également disponible sur la web radio blvd.fm et vous retrouvez le meilleur de nos émissions également dans l'onglet podcast. Vous avez aussi notre application qui est disponible dans l'App Store, Google Play Store. C'est Boulevard 102.1 et les haut-parleurs intelligents. Qu'est-ce qu'on dit, non, Pascal CV, haut-parleurs intelligents? Aide-moi dedans, là.
BLVD 102.1. Et là, vous allez tomber directement sur la belle voix doucereuse de chacun de vos animateurs ici.
C'est ça, là, vous allez tomber. C'est ça. Oh, le Twitch. Oh, on marque le Twitch, s'il vous plaît. Quoi, le Twitch n'est pas parti?
Non, il y avait un petit bug, mais il est là, les amis.
Il est là. Hey, as-tu vu comment les gens veulent venir voir Pascal CV maquillé comme une TV Girls?
Je dirais pas que je suis au bout complètement de la caméra et qu'on voit pas grand-chose.
Mais c'est pas grave.
Venez
moi,
nous
je
voir.
Vois pas la différence. Ah! Tantôt, t'as dit je suis maquillée, mais t'es toujours belle, t'es toujours rayonnante.
Non, mais j'en ai plus souvent voir, y a pas de problème.
Oui. Antonine, wow, c'est donc bien beau. Mais moi, je suis chanceux parce que je travaille avec Pascal. Antonine, qui est toujours avec nous, vous êtes des femmes rayonnantes, vous êtes des femmes brillantes. Je suis heureux de travailler avec vous.
Bon, c'est pareil pour nous.
C'est
merci,
beau,
Jeff.
Hein? Excellent. Anto, ça va être gros, ce qu'on va dire, là, au monde. T'as de quoi, là? T'as mis à main sur des documents, là?
Oui! Oh, fait qu'on parle le caucus!
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Le caucus Iaccarini a mis à main sur des dossiers spéciaux. Et pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on va parler, on écoute notre premier ministre.
Je ne sais pas comment le dire, là. Je vais être là en octobre 2026. Puis je veux un troisième mandat. Je veux compléter le travail qu'on est en train de faire, entre autres avec Hydro-Québec, l'énergie, l'économie, où depuis 6 ans, on a battu le reste du Canada puis on a réduit l'écart de richesse. Mais il en reste encore un écart de richesse. Donc, je veux finir la job. Avec les médecins, je veux finir la job. Donc, moi, je suis plus passionné que jamais.
J'ai pitché une loi spéciale, j'ai expliqué ma vision économique, je veux finir la job, mais est-ce que
je suis plus passionné que jamais.
Plus passionné que jamais, oui.
Mais dans les coulisses là, de la CAQ, là, il se trame quoi pour François Legault?
Bon, écoute, il faut se rapporter, il y a quelques années, M. Legault disait qu'il ne ferait pas plus de 2 mandats. Hein, il a déclaré publiquement à plusieurs reprises. Il avait aussi dit, puis on revisitait tantôt avec des collègues les entrevues qu'il donnait à ce sujet-là, et il disait, bien, c'est sûr que si je ne fais pas de troisième mandat, à un moment donné, dans le deuxième mandat, il va falloir que je quitte,
ben oui.
Qu'il y ait une course à la direction. On est d'accord.
Exactement.
Bon, là, ces temps-ci, évidemment, ça va moins bien pour la CAQ. On a des sondages dont on va discuter dans un instant qui ne sont pas très reluisants. Et il se fait poser énormément de questions sur son avenir politique. Est-ce qu'il va rester vraiment jusqu'en 2026? Puis c'est sûr, quand on met en contraste avec ce qu'il disait par le passé, il a clairement changé d'idée. Mais là, je vous ramène en 2023. La CAQ, le parti, a préparé des règles de course à la direction.
Oh, oh! Donc, mais on a toujours dit que la CAQ, c'était le parti de François Legault.
Bien, puis d'ailleurs, François Legault, le nom de François Legault est dans le nom du parti.
Oui.
Donc, moi, je trouve souvent qu'on n'a pas mis les jalons pour la succession entre François Legault. On n'a pas préparé des successeurs. Au contraire, en fait, on en a brûlé plusieurs, là, des successeurs.
Autant pour son parti, je trouve, l'interne, que pour les électeurs, les futurs électeurs.
Aussi. Souvent, je me dis, coudonc, c'est comme s'il ne voulait pas penser à l'après. Puis est-ce que la CAQ va survivre finalement après François Legault? Après son remaniement ministériel, il avait fait une tournée d'entrevue, puis il avait répondu aux gens, pourquoi vous restez, pourquoi vous entêtez à rester, vous aviez dit que vous feriez deux mandats. Il avait répondu, c'est une coalition, hein? Mon caucus, là, c'est pas tout du monde qui pense pareil, puis ils ont besoin de moi pour tenir ça ensemble. Mais le parti, il y a quelques années, il y a deux ans, était sur l'idée que M. Legault ferait pas un troisième mandat. Donc se préparait à une éventuelle course à la direction. Et on a mis la main sur certaines de ces règles-là.
Donc, il y a des règles écrites qui existent, sur lesquelles toi, tu as mis la main, Antonine Iaccarini, c'est en exclusivité Boulevard, et tu vas nous raconter comment qu'on organiserait cette course à la succession pour peut-être Simon-Jolin Barrette, qui est à 18%.
Mais qu'on a vu ce matin, entre autres, à la télé, si vous avez vu.
Geneviève Guilbeault, qui est à 15%. Ou peut-être pour Bernard Drinville, mais il est à 1%, Bernard.
Puis, il faut le dire, là, en début de course à la chefferie, les sondages, c'est toujours un peu... C'est toujours famélique, là. Puis c'est normal, parce que le chef actuel prend tellement de place et tout ça. Mais après ça, la course est déclenchée, puis les gens se font connaître, puis on a vu des gens qui partaient de pas grand-chose pour finalement gagner des courses à la chefferie. Et pourquoi c'est important, les règles de course à la chefferie? C'est que, dépendamment des choix qui sont faits par le parti, ça peut avantager un type de candidat, désavantager d'autres types de candidats. T'sais, par exemple, le coût d'entrée, la méthode de vote. Chez les libéraux, par exemple, l'année dernière, il y avait des votes prépondérants pour les jeunes. Et il y avait des candidats qui avaient plus de succès auprès des
Charles Milliard. Il a passé proche de battre Pablo.
Quand on a vu la course au fédéral l'année passée, la succession de Justin Trudeau, il y avait un fort coût d'entrée. Donc, on ne voulait pas avoir 12 candidats, cette course-là.
Exactement. Donc, ça l'a réduit à 4, ça permet à Marc d'être élu.
Exact. Donc, les courses à la les règles de course à la chefferie, c'est très important. Là, il faut que je vous dise ce que je vais vous dire ce qui est écrit dans les documents que j'ai trouvés, mais ces règles-là n'ont pas nécessairement été adoptées, elles ne sont pas nécessairement coulées dans le béton. C'est un projet qui a été fait. J'ai eu des échanges courriels, donc il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur ces règles de course à la chefferie-là. Mais en cas de départ de François Legault, dans la constitution du parti, il est écrit que c'est le comité exécutif, l'exécutif national, qui va déterminer les règles de course à la chefferie, et là, ça deviendrait officiel.
Mais quand même, c'est une proposition qui est précise, donc on peut se dire que ça va ressembler à ça si le Legault part.
Donc, on parlait ici, en fait, si je vais vous lire des extraits là, carrément. Le président d'élection proclame chef de parti, le candidat ayant obtenu la majorité absolue, 50% plus 1 des suffrages exprimés. Donc, si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour, un nouveau décompte est effectué en éliminant le candidat ayant obtenu le moins de votes. Donc, il y aurait possibilité d'avoir plusieurs tours comme ça, et c'est un vote préférentiel. Donc, ça veut dire, ça, là, comment ça change la dynamique d'une course à la chefferie, ça veut dire que tu es un peu moins méchant, des fois, avec certains adversaires, parce que tu dis, moi, je veux avoir ces votes. Je veux être le deuxième choix de ce candidat-là. On a vu ça au Parti libéral l'année passée. Dans les débats, tu voyais que par exemple, Cal Blackburn, qui est un fin renard, il attaquait pas les deux plus petits candidats, parce qu'ils se disaient, moi, ces votes-là, là, quand ils vont être éliminés au premier tour, je les veux.
Fait que ça veut dire qu'un Simon-Jolin Barrette à 18% présentement serait ami-ami avec Sonia Lebel à 6%.
Bien, ça dépend, parce que là, puis c'est super intéressant ce que tu dis, parce que à la CAQ, il y a une aile fédéraliste plus rouge, puis une aile plus nationaliste. Une Sonia Lebel est classé, là, mettons qu'on fait ça bêtement, dans l'aile rouge, alors qu'un Simon-Jolin Barrette est classé dans l'aile bleue. Geneviève Guilbeault était réputée plus être de l'aile rouge aussi. Donc là, tu vois une certaine division de
Christine Fréchette, elle, à 9%?
Christine Fréchette,
on le sait pas trop.
Ben, on le sait pas trop. Elle a travaillé au PQ quand même, Christine Fréchette, fait qu'on peut s'imaginer qu'elle
Bernard Drinville, c'est ça, c'est
Bernard Drinville, mais là, tu te dis, OK, fait que dans un vote préférentiel comme celui-là, si t'es un Simon-Jolin Barrette, tu vas pas nécessairement planter Bernard Drainville, mettons qu'ils sont, qu'ils sont des candidats.
Tu pourrais être rallié encore plus que juste par le parti en ça.
Tu veux avoir ces votes-là, mais en même temps, tu te dis, c'est ceux qui vont vraiment vouloir voter pour Bernard, là, je veux pas qu'ils maillissent non plus.
Non.
Là,
ça, parce que quand Bernard va être éliminé après le premier tour, je veux qu'il vote pour moi.
Je veux être son deuxième choix. Donc, c'est super important, ce genre de règles de course à la chefferie. Puis, tout ça, ça met aussi en exergue le fait que M. Legault a changé d'idée en titi, là.
Ben oui.
Parce il m'a fait perdre 100 piastres, ravoir 100 piastres.
Parce que tu gageais, toi.
Contre Yannick. Depuis le début, je dis... Puis tu sais, je veux dire, je vous souhaite que je le perde, le 100 piastres, mais depuis le début, je disais, il va pas se représenter. Plus ça avançait, plus je pensais le perdre, ce 100 piastres-là.
Ah oui.
Puis il y a même quelqu'un qui nous écrit au 88-971-1021. Même Justin a eu l'intelligence de démissionner avec un appui supérieur à Legault. Mais en même temps, là, on peut bien choisir, avoir envie de ça. Antonine, tu nous éclaires souvent sur tout ce que ça constitue aussi un départ à ce moment-là. Là.
Bien, d'abord, un départ de François Legault, ce que ça voudrait dire, c'est que les prochains mois, là, le gouvernement serait au ralenti, parce qu'on serait vraiment dans une course à la succession. C'est pas vrai que les ministres, les successeurs potentiels, là, t'sais, on serait tous vraiment concentrés sur nos dossiers nécessairement. C'est pour ça qu'on sent qu'il y a vraiment un rush aussi en ce moment. Évidemment, on a comme une urgence de vivre. C'est sûr que c'est la dernière année avant la prochaine campagne électorale. Mais M. Legault envoie des signaux de quelqu'un qui veut rester. Puis, à un moment donné, il y a un moment limite aussi. Parce que tu peux pas, il pourrait pas décider de partir deux mois avant l'élection, parce qu'il faut choisir un chef potentiel.
En effet.
Donc, c'est sûr que le deadline qu'on voit tout le monde, c'est Noël. Donc, si M. Legault revient février là, pour la rentrée parlementaire, puis qu'il n'a pas décidé de quitter, moi, je pense que ça y est, là, c'est ça le sort en jeté. Oui, donc ça va être à suivre, mais le parti s'était préparé pour le premier scénario, c'est-à-dire que...
Que celui qui partait avec une proportionnelle qui amène une course à la chefferie tellement intéressante. Y avait-tu d'autres choses dans ce que tu as vu, les échanges courriels, les documents, y a-tu d'autres choses qui nous disent...
Non,
wow!
Mais il y a une autre rumeur de laquelle je veux vous parler. Puis c'est vraiment de l'ordre de la rumeur, puis hier à la CAQ, on y est en bloc que c'est vrai, mais ça circule énormément. Ce serait le départ potentiel de la directrice générale du parti.
Oh.
Brigitte Legault, c'est pas la sœur de François Legault, je vous
okay, qui sont jamais donné de bisous.
C'est pas elle qui a reçu un bec en 2018. Brigitte Legault, c'est vraiment l'acolyte de M. Legault, c'est son organisatrice en chef, c'est l'architecte des campagnes électorales qu'on a connues. Et au parti hier, on me disait, c'est nos adversaires politiques qui spinent ça parce que ça augmente l'espèce d'idée que M. Legault est sur le bord de s'en aller puis que tout va mal. Mais on peut vous assurer que Brigitte Legault va être là à la prochaine campagne, qu'elle est en train de travailler là-dessus et tout ça. Mais c'est très persistant, ça n'arrête pas de revenir à mes oreilles que Brigitte Legault quitterait. Puis c'est sûr qu'en ce moment, avec la crise un peu dans laquelle M. Legault se trouve, ça enverrait vraiment un bien mauvais message d'avoir sa DG qui quitte le navire. Tu sais, si un Lionel Carman quitte, c'était un coup dur, on s'entend. Mais Brigitte Legault, ce serait un coup beaucoup plus dur qu'un départ de Lionel Carman.
Je vous adore, auditeur, auditrice, par texto. Il y a Marie-Ève qui écrit « Vous trouvez pas qu'on est déjà au ralenti? » Parce que tu dis que ça mettrait le gouvernement au ralenti.
Ben, je les trouve un peu hyper actifs, mais je suis pas sûre que ça donne toujours les fruits.
Puis il y a Kim qui écrit « On peut mettre ça au ralenti, ça va éviter des dépenses folles. » Antonine...
c'est encore drôle. Ouais.
Antonine, dis-moi donc, est-ce que ce qui est arrivé ce matin à l'Assemblée nationale alors que François Legault était questionné par Marois Risky, c'est de la frime?
La réponse du premier ministre.
On se lève. On l'ovationne. Hey, rassoyez-vous, on n'a pas le droit à l'Assemblée nationale.
C'est vrai, c'est interdit. C'est interdit.
Check bien ça comme en maternelle, écoute-moi. Comme bien ça, Pascal. Salut! Il y a des jeux de mots!
Ben oui, il y a un don.
On est dans une cour d'école! Notre politique à la meilleure.
Pauvre Nathalie Roy
vous
qui est comme le
règlement. Et là, on est obligé de prendre une pause de quelques minutes pour que les esprits se calment.
Là, dans ce temps-là, les gens vont dans l'antichambre puis ils mangent des petites pinottes au chocolat
c'est
en
ça.
Arrière.
Les petits amis, on s'en va dans la salle de retrait. Prenez chacun votre doudou, d'accord? Là, on va se calmer,
on
va se tempérer.
On est-tu en train de faire un spectacle? On est-tu en train d'attirer l'attention? Ou vraiment, là, ça chauffe là, à l'Assemblée nationale?
Non, je pense qu'on est un peu dans... dans le spectacle. Puis,
ben
oui. Mais il faut comprendre que c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que, puis c'est vrai que les applaudissements sont interdits, je le mets entre guillemets, pendant la période de questions, oui, depuis quelques années déjà. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Ça peut sembler niaiseux, mais c'est que ça finissait plus.
Ben non, par date du temps.
Là, à chaque fois que quelqu'un disait quelque chose, ben, vous avez juste à regarder la période de questions à Ottawa. Communes. Exactement.
À Ottawa, Mark Carney dit deux phrases.
Bonjour,
innovation.
Bravo, bravo.
Non, non, mais Carney dit deux phrases, ovation de 30 secondes. Il a dit deux phrases, une autre ovation.
Ça pouvait sûrement faire des stratégies politiques aussi pour un parti qui voulait présenter quelque chose puis qui se voyait
pas
couper du temps parce que l'autre disait
une
pas
période de questions, c'est une période de temps fixe. Donc, tu sais pas jusqu'à combien de questions tu vas te rendre. Okay, toi, tu es dans l'opposition, puis mettons que tu as la question 11, toi. Tu sais pas si tu vas te rendre en question 11. Fait que plus il y a du niaisage, puis du
moins
t'as bravo, moins tu as de temps pour poser les questions. Fait qu'à un moment donné, on a décidé à l'Assemblée nationale d'enlever les applaudissements. On applaudit quand même quand il y a des motions ou des gens dans les tribunes, mais on n'applaudit plus pendant la période de questions parce que ça faisait juste des effets de toge. Puis là, tout le monde se crainquait, puis ça faisait la garderie comme tu nous as fait entendre.
Là, on a ovationné François d'un côté, on l'a hué de l'autre bord. On l'a ovationné parce qu'il y a 61% des Québécois qui veulent qu'il quitte. Il y a seulement 23% des Québécois qui veulent que François Legault reste. Et il y a seulement 1% qui sont très satisfaits du gouvernement. Donc,
je pense
que
c'est le staff de la CAQ, ça.
Oui, c'est ça, ou la famille.
La famille.
La famille, quelque chose. C'est de la frime, là. Il y a du monde à l'intérieur de la CAQ qui veut qu'il parte. Là. C'est pas tout le monde qui a le goût d'ovationner François Legault parce qu'il dit « Si j'ai ce score-là, c'est en raison des méchants lobbies. Les médecins ont rempli le Centre Bell contre moi. Les syndicats s'élèvent contre mes politiques. » Mais dans les faits, là, c'est parce que aïe, 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 déficit record, gestion déficiente, Satlick, Norvolt, puis là, tu sais, je pourrais continuer
puis
une bonne longue liste.
Usure normale usure aussi du pouvoir, après, après 7 ans, à travers tout ça. L'état d'esprit en ce moment à l'interne, là, avec les gens à qui je parle puis qui me parlent un peu plus off the record, les députés, ça dépend lesquels. Là. On a vu des Isabelle Poulet puis Maïté Blanchette là, qui n'étaient pas contentes puis qui est sortie puis tout ça. Il y a des gens qui parlent contre, contre le leadership du premier ministre. Lionel Carman, lui, il n'a pas quitté pour remettre en question le leadership de François Legault. Non. Il est en désaccord sur une question de valeur, c'est autre chose. Sinon, là, on en parlait tantôt quand on parlait de la succession de François Legault. La CAQ, c'est un parti qui est interrelié de manière complètement fusionnelle avec son chef. Les députés, pour la plupart, le savent. Et ils savent très bien que si on était élus en 2018 puis en 2022, c'est pas grâce à leur belle personnalité à eux. Là.
C'est à cause de François Legault.
C'est François Legault qui a été une locomotive pendant longtemps. Puis là, à la minute où ça marche plus, on lâcherait puis on commencerait à le pousser vers la sortie. Donc, les gens se gardent une gêne. Moi, j'aime bien faire la comparaison de ce qui se passe en ce moment avec ce qui s'est passé à Ottawa l'année passée pour Justin Trudeau. Le Parti libéral du Canada, ce n'est pas Justin Trudeau. C'est un parti qui existait avant Justin Trudeau. Il y a eu beaucoup de chefs. Il va en avoir d'autres après Justin Trudeau. C'est un véhicule, mais ce n'est pas son véhicule à lui. Donc, il y avait un petit peu plus d'animosité au sein du caucus, des députés qui se sont mis à sortir, à écrire des lettres ouvertes dans les journaux, à parler aux médias, etc., etc. On sent moins ça à la CAQ. Hein, il y a quand même une idée que, tu sais, la CAQ, c'est à lui, dans le fond, puis qu'il partira quand il partira. Il y a aussi des gens qui défendent François Legault. Il y a des ministres, notamment, qui ont pris la parole récemment.
Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, qui lui sort et dit, l'avoue lui-même, là, moi, si je suis en politique, c'est à cause de François Legault.
Exactement.
C'est lui qui m'a fait élire deux fois. Là.
Donc, il a fait une espèce de manifestation de loyauté publique. Je vais être bien honnête avec vous. Les médias ont tendance à plus couvrir le croustillant que quelqu'un qui dit « Moi, je trouve que François Legault fait un bon travail. » Pas nous autres, je parle
ben
des
non, fait,
autres.
Attends,
là.
Attends, on fait pas ça, j'ai fait jouer ça, mais on fait pas ça.
La
pas jouer
réponse
fait
du premier ministre.
Pas boulevard.
Jamais.
Ah. Ben, c'est parce que si François Legault est à l'écoute, son petit cœur va mieux,
ça va mieux.
C'est pour ça que je baisse le son avant les huées.
Avant les huées. Donc, ça fait un peu moins les nouvelles des gens qui sont satisfaits, mais cela dit, il n'y a personne en ce moment qui le pousse directement vers la sortie. Autre point intéressant de comparaison avec Justin Trudeau l'année passée, c'est Chrystia Freeland.
Ben oui.
Elle l'a poignardé en public, là, tu sais, le jour de la mise à jour économique, elle était fâchée pour toutes sortes de raisons. Ça, c'est énorme. Puis Chrystia Freeland, ben, elle n'a pas gagné la course à la chefferie après. Donc, des successeurs potentiels de François Legault en ce moment, Ils veulent pas faire un Chrystia Freeland.
Ils poignarderont pas, en effet. Puis tu sais, l'effet Chrystia Freeland, si je veux faire un comparatif, puis tu me dis si je me trompe, c'est un peu comme si Christian Dubé sortait aujourd'hui puis disait « Savez-vous quoi, la loi spéciale, c'est François Legault, il me l'a forcé, puis quand la CAQ, je m'en vais. »
Je suis d'accord avec ton analyse. Honnêtement, c'est drôle de... Tu n'as rien dit pendant tout ce temps-là, mais maintenant que tu apprends que tu vas être tassé de ton poste de ministre des Finances, tu n'es pas d'accord avec ce que tu as fait dans les dernières années.
Puis peut-être que, oui, effectivement, elle aurait pu remporter quoi que ce soit, mais en même temps, en ne l'ayant pas remporté, je me demande, Antonine, si les autres partis, admettons qu'elle voulait aller dans un autre parti par la suite, ne ferait pas « Oh non, toi, tu as déjà poignardé ton chef dans
le
groupe
politiquement parlant. » Oui, c'est un coup politique aussi de poignarder son chef. Mais c'est drôle que tu poses cette question-là en même temps parce qu'on se dit si elle voulait aller dans un autre parti. T'sais, on est vraiment dans des années où le monde magasine des partis et change beaucoup de partis. Ben. Il y a moins de... Cette loyauté-là, elle existe moins. Puis je pense qu'on... On parle des successeurs potentiels de François Legault, puis des fois, on parle de ceux qui sont déjà ministres, mais il pourrait y avoir des gens de l'extérieur qui veulent reprendre le flambeau. Mais tu te dis, est-ce que tu as vraiment envie de reprendre le parti dans l'état actuel des choses avec un caucus qui n'est pas le tien, des gens qui ne s'entendent pas tous entre eux? Donc, je pense qu'on va peut-être voir dans les prochaines années des nouveaux partis politiques. On regarde en France, par exemple, Emmanuel Macron, il est arrivé de nulle part avec un nouveau parti là, En Marche. Est-ce qu'on va voir un peu ce phénomène-là au Québec aussi? François Legault est arrivé avec la CAQ, puis c'est son bébé à lui. Peut-être qu'on aura un jour un autre parti.
Quand le PQ s'était scindé, ça a été Option nationale en premier avec Jean-Martin Hossan. Il y avait Sol Zanetti également qui était là-dedans. Donc...
Puis Option nationale n'a pas vraiment survécu au départ de Jean-Martin Hossan pendant un petit bout de temps après. Donc, il pourrait aussi... L'après François Legault à la CAQ, ça pourrait aussi être un rebrassage complet
de
des
nouveaux
partis politiques.
Ben oui, exactement. T'as entièrement
Retour de la
raison.
DQ, pourquoi pas?
Ben justement, je te pose la question, Mario Dumont, t'en penses quoi? Il y a plein de monde qui pitch son nom. Moi, je pense qu'il est heureux dans les médias. J'y ai pas parlé personnellement, mais j'avais fait une chronique avec lui à l'automne, au printemps passé, puis j'y avais posé la question off the record, puis il m'avait dit « Écoute, je suis tellement bien dans les médias. J'ai un nouveau défi à la radio. » Tu sais, je ferme jamais la porte, mais disons qu'elle n'est pas ouverte à l'heure actuelle.
Ouais, ben je pense que c'est vrai. Puis Mario Dumont, il a une superbe carrière dans les médias, très apprécié des gens. Tu sais, quand tu vas en politique, il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui vont t'haïr. Puis à la fin de ton passage, si t'es premier ministre, ben tout le monde t'haït pendant un petit bout de temps. Après ça, le monde t'aime un petit peu quand il t'oublie puis que le temps passe. Mais quand tu as un travail comme celui de Mario Dumont, où tu parles aux Québécois tous les jours, tu rentres dans leur salon, dans leur auto, dans leurs oreilles. Tu sais, vous le savez, c'est un privilège de faire ce travail-là. C'est un peu dur de penser qu'il va retourner en politique. Excusez-moi l'expression, c'est vulgaire, mais se faire chier. Parce que tout le monde, on le sait comment c'est dur, la politique, travailler à la fin de semaine, les soirs, sans cesse, pour te faire envoyer promener par pas mal de monde. On peut comprendre que c'est un drôle de choix des fois, mais on a vu un Bernard Drainville retourner. La politique, c'est une drogue dure. Donc, moi, je pense qu'on peut jamais l'exclure complètement. Puis je me méfie aussi des messies. C'est-à-dire, à force de toujours parler de quelqu'un comme d'un messie, Jean-Martin Hossan, ça a été ça pendant longtemps.
Ça m'amarre quand les rumeurs qu'il allait s'en venir à la ville
Quel
de
bon
Québec,
exemple.
C'était vu comme un messie.
Des fois, ce qui arrive, c'est que tu ne peux que décevoir après quand les attentes sont tellement, tellement élevées. Donc, ça doit être il a dû y penser aussi, Mario Dumont.
Il n'y a rien. C'est vraiment quelque chose que j'ignore. Par exemple, un Mario Dumont qui a ce privilège-là de parler, faire valoir ses idées, d'aller chercher un bon grand public quand même là, quotidiennement. Il n'y a rien qui dit... dans une loi quelconque, que tu as déjà eu trop de privilèges pour parler aux personnes. Il faudrait peut-être que tu te fasses, fais-toi pas voir pendant 6 mois, fais-toi pas entendre. Il n'y a rien en politique qui demande ça.
Pourquoi on empêcherait les gens de parler après avoir été élu?
C'est vraiment quelque chose que je me questionnais depuis longtemps, en me disant, est-ce qu'il y en a qui pourraient dire, tu as eu ce privilège-là, donc tu as pu faire une course, mettons, avant la vraie course, avant nous, puis tu avais du temps de glace. Je me suis toujours questionnée. S'il y avait quelque chose
ça serait quoi l'effet
discuté.
Pervers d'avoir des gens... ça serait quoi l'enjeu en ce moment qu'on a qu'il faudrait régler avec une telle réflexion?
Moi, je verrais une réflexion d'un parti opposé, par exemple, à celui de Mario Dumont, s'il arrivait en politique, puis qui dirait, oui, mais là, toi, t'as l'avantage depuis des années de faire passer tes idées, de parler aux gens. Moi, je suis un kidam qui arrive de nulle part. On n'est pas à égalité dans cette course-là. Ça s'est jamais entendu ou vu, ou peut-être juste pointé du doigt pour écœurer l'autre.
Non, mais c'est sûr que les journalistes ou chroniqueurs qui passent du côté politique, c'est toujours critiqué quand c'est pas dans ton parti. En fait, je vais dire ça comme ça.
Je veux terminer cet excellent caucus Iaccarini du lundi au jeudi à l'émission Nageurs de midi à midi et demi. Je commence par un extrait de cet homme.
Et mon message ce matin, c'est qu'un parti libéral du Québec qui fait des campagnes de peur et qui a presque pas de contenu On a vu ça à presque chaque décennie de notre histoire au Québec. Et ça a toujours mené à des gouvernements affairistes et corrompus.
Il s'est mal chicané, notre Paul Saint-Pierre.
Ben, hein, il est devenu plus négatif.
Oui, il est devenu plus négatif. Il voulait faire de la politique autrement. Il était positif. Il se promenait. Tout le monde l'aimait.
Tout le monde l'aimait. Ben
PSPP,
oui.
PSPP. Il a gagné Jean Talon ici comme si rien n'était.
Il a gagné toutes ses partielles.
Il a gagné toutes ses partielles. Mais là, oups! Depuis qu'il est négatif, il est passé de 36 % à 32 %.
En fait, tu sais quoi? Je vais te présenter les choses autrement. Je pense pas qu'il a changé. Je pense juste que ça passe moins. Parce que... il est comme ça. C'est un bagarreur.
Oui, c'est clair. Mondon.
Puis je le comparerais pas, par exemple, à un Pierre Poilievre, là, non, qui va beaucoup trop loin.
Mais c'est clair que pour remonter le PQ comme il l'a fait, il faut que tu saches te bagarrer.
Exactement. Puis c'est drôle, hein? C'est vraiment intéressant ce que tu apportes comme point, parce que pour passer de parti que tout le monde a déclaré mort puis quasiment enterré à réussir comme ça à être premier dans les sondages pendant 2 ans, tu sais, je veux dire, c'est extraordinaire, puis ça prend de l'audace. Mais à un moment donné, quand t'es premier là, puis que t'es bien installé, faut que tu changes un peu. Moi, en politique, mon ancien boss, Jean-François Lisée, disait, il y a des faucons puis il y a des colombes. T'as besoin de faucons qui prennent des risques, qui sont à l'attaque, puis surtout si tu veux passer de troisième opposition au gouvernement. Okay? Moi, j'étais une colombe, OK? C'est-à-dire, je suis pas la personne pour être cow-boy, puis attaquer le monde, puis être négative, puis faire un sale coup à quelqu'un. Mais je suis plus le genre de personnalité qui va t'éviter des problèmes en disant, ça, tu vois, je pense que c'est pas une bonne idée. Bien, là, j'ai l'impression qu'ils ont leur réflexe de faucon, mais qu'ils n'ont pas le
réflexe... Ils ne sont pas entourés de colombes?
Ben, écoute, je ne sais pas s'il y a des colombes dans leur entourage, mais tu sais, je vais donner des exemples concrets. Paul Journet écrit un texte et il parle de la surenchère identitaire entre le PQ et la CAQ. Il s'interroge un peu sur est-ce qu'on est en train d'aller un peu trop loin puis d'instrumentaliser les questions identitaires, par exemple de laïcité, etc., d'immigration, parce que la CAQ puis le PQ, finalement, la CAQ est au gouvernement puis le PQ est premier dans les sondages, puis là, ça donne une surenchère. Là, Paul Saint-Pierre Plamondon prend sa plume sur X et écrit un très long tweet qui parle de procès d'intention puis de fallacieux puis de nanana. Paul Journet, c'est pas un adversaire politique. C'est un chroniqueur, éditorialiste de la presse qui est plutôt réputé pour être équilibré. Il n'est pas du genre tant que ça à planter les gens. Il est quelqu'un de balancé, généralement. Puis j'avais lu la publication de Paul Saint-Pierre.
Mais pourquoi?
J'étais comme, c'est beaucoup trop agressif. T'sais, il aurait pu dire, ben, je m'inscris en faux, puis voici mes arguments, mais procès d'intention. Puis je lisais le texte de Paul Journet, puis je me disais, c'est pas un procès d'intention. Après ça, il y a eu Régis Labeaume. Richard Labon m'a écrit un texte, puis pour vrai, quand je l'ai lu, je me disais, voici un procès d'intention. Oui. Ça, c'était vrai.
Puis il est passé, tout le monde en parle, puis il a fait le même procès d'intention.
Absolument. Fait que, tu sais, moi, être Paul Saint-Pierre Plamondon, j'aurais répondu, puis ça aurait été assez bête. Mais c'est juste que là, quand tu t'ostines avec tout le monde, tout le temps, tu réponds à tout. Tu sais, il faut faire des choix. Eux, ce qu'ils disent au PQ, c'est on peut pas laisser se cristalliser ces idées-là, on doit répondre. Oui, mais tout est dans le comment aussi. Puis c'est sûr qu'entre un Régis Labeaume qui dit un peu plus « vous voulez mettre tous les musulmans en prison », là, j'exagère aussi juste pour mon image, puis un Paul Journet qui dit « est-ce qu'on est dans une situation de surenchère? » Tu sais, je pense qu'il faut être prudent. Il y a une motadine de différence.
Oui, il y a une différence dans les deux discours.
Ben, les réponses sont les mêmes.
Il y en a un petit peu plus osé et poussé.
Et de mauvaise foi.
Et de mauvaise foi, en effet. Puis il y en a un autre qui est beaucoup plus tempéré.
En mode analyse. Il n'a pas rien dit qui était faux comme tel. Donc, je pense que ça peut-être avoir effectivement un impact sur la petite baisse là, qu'on voit du côté des sondages du PQ.
On a un auditeur qui écrit « PSPP, passer de bon père de famille à petit baveux ».
Ouais, c'est ça. Ouais. Ça plaît pas, ça. Hein?
Hey, je t'en remercie, par exemple, parce que je viens de découvrir que j'étais un maudit faucon, moi.
Toi, tu t'identifies comme un faucon?
Hey, moi, je fonce.
Toi, Pascal,
devine. Première.
Colombe.
Oui.
Fait que j'ai besoin de m'entourer de colombes. J'ai pas le choix.
Ben, dans une équipe, là, toi qui as géré des équipes et tout ça, t'as besoin des deux.
Ben oui.
Moi, j'ai travaillé...
RTC, ils m'ont toujours dit crime qu'on aime son, te donne un défi, tu fonces tête première, ben, avoir go, tu le réalises. Une fois qu'il est réalisé, ben, j'ai besoin d'une petite colombe qui vient stabiliser ce que j'ai fait.
On se calme maintenant. C'est ça, faut on se stabilise. Moi, j'ai travaillé avec
qu'il
mon
chum.
C'est
pour ça qu'il me trouvait un autre défi. Ben, il dit, hey, check down,
exact.
On va aller
là. Il faut vous donner des missions.
Pas le choix.
Les pour faucons, vous occuper. Pour vous occuper. Puis moi, j'appelais ça dans le temps avant que Jean-François Lisée mette des noms d'animaux sur ça. J'appelais ça des, excusez-moi l'expression anglaise, mais des snipers. Mm. T'as besoin d'un sniper là, qui va aller, c'est quasiment un tueur à gage, mais là, je parle pas de vrai meurtre ici, là, je le précise. Moi, j'ai travaillé quelques années avec mon chum. À l'époque que j'étais au PQ, mon chum, il travaillait comme rédacteur de discours. Mon chum, c'est un sniper. Il ne sera pas content que je parle de lui comme ça, mais c'est un sniper. Tu le mets sur une mission, tu dis là...
Ben, t'es en train d'en faire la salle de lavage.
Faux petit... Ben, c'est ça, il est en train de sniper la
salle de lavage.
En une journée.
Parce que sa petite colombe me dit, « Hey, j'aimerais ça qu'on fasse la salle de lavage. »
Lui, il va avoir une idée de génie pour aller trouver quelque chose sur l'opposition, ligne assassine, etc., puis aller « gonner » entre guillemets quelqu'un. Mais des fois, son cow-boy, tu sais, puis des fois, c'est pas le temps. Puis, tu sais, si tu veux que les gens te voient comme un premier ministre... Ben, il faut que tu agisses aussi comme tel. Puis moi, c'est vraiment ce que j'interprète dans ce sondage-là. Puis aussi le fait que les autres partis prennent des plumes un peu, puis un peu du poids de la
bête. Est-ce que les Québécois ont trop peur? Parce que Max Larouche nous disait ça un matin, un souverainiste convaincu. Regardez comment le Québec a peur. Pablo Rodriguez a pris 2%.
Ben, moi, je me suis toujours méfiée des libéraux. Le monde, il riait d'eux autres il y a 2 ans. Je dis attention, ils trouvent toujours le moyen de regagner.
Il y a une machine.
Ben, c'est le parti rassurant de... Je vais gérer l'économie.
Ben, c'est drôle. C'est ce que je disais à matin, Yannick. Je disais, où est-ce que tu veux que mon père se retrouve? Lui qui avait voté à la CAQ, mais qui est fédéraliste à côté.
Ouais, puis qui est plus capable de François Legault.
Exactement. Plus capable de François Legault. Écoute, François Legault puis Donald Trump, il en fait des cauchemars les deux le soir. OK? Fait que là, il se réveille à matin, je veux plus à CAQ. Il n'ira pas au PQ, il n'est pas souverainiste.
Québec solidaire, non? Ça l'intéresse pas.
Non, je pense pas que le discours de Québec solidaire. Il y aurait peut-être, et justement, on va l'avoir avec nous dans quelques instants, Éric Duhaime, il y aurait peut-être le Parti conservateur, mais pour le moment, il trouve qu'il y a un petit peu trop d'extrême dans le Parti conservateur. Fait quoi, est-ce qu'il s'en va? Aux libéraux.
C'est l'option.
Il y en a plein de gens comme ça.
Oui, puis là, on a parlé beaucoup de référendums dans les derniers temps. Il y a quelques temps, on disait, ouais, le PQ promet un référendum dans un premier mandat, mais tu sais, ça restait loin puis hypothétique. Puis là, plus on s'approche de l'échéance, il y a une crise commerciale avec les États-Unis. Tu sais, donc, il y a certaines personnes pour qui ça va créer une insécurité. Tu sais, moi, je fais souvent la métaphore quand on parle de séparation du Québec avec un divorce. C'est sûr que tu dis, bon, toi, dans ta tête, tu prévois de te divorcer et ça implique un paquet de choses. Puis là, tu dis, ouais, c'est peut-être pas le bon moment ces temps-ci, il se passe ci, il se passe ça. Il y a toujours quelque chose, tu sais. Puis en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une couple d'électeurs qui se disent, bien, avant, j'étais prêt à voter pour le PQ, même si je suis pas vraiment souverainiste. Mais là, peut-être, je prendrai pas de chance qu'il y ait un référendum.
Pas le risque de ça. Très bonne analyse, Antonine Iaccarini. Tu restes avec nous?
Oui.
Parce que je veux absolument que tu questionnes Éric Duhaime, parce que hier, tu nous as sorti en primeur. Duhaime, il s'en va dans Belle Chasse.
Ben, là, attends, là.
Fait que là, il s'en vient en studio avec nous autres, avec Maïté Blanchette-Vézina. C'est une excellente idée de Pascal CV, parce qu'on va parler, Pascal, de quoi avec Maïté et Éric Duhaime? Plus, on est dans le même parti politique que
ça. Ça sera
va falloir leur poser la question, Mais on va parler de vote proportionnel. Hein?
Exactement.
Ah oui, j'ai une belle cote de
là,
François
si vous dites non, que c'est ça, je ne change de poste. Non, attendez.
Non.
Sachez du petit bonbon là-dedans.
Oui, parce que sachez qu'avec le vote proportionnel, et je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui votent pour le Parti conservateur du Québec, bien, vous auriez 10 députés du Parti conservateur du Québec si on avait eu le vote proportionnel en 2022.
Et c'est sur quoi ils se défendent et plaide énormément depuis les dernières élections.
Exactement. Fait que c'est pour ça qu'on vous en parle. C'est pour que votre vote ait plus de valeur. Alors, restez à l'écoute. On reçoit Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, et Maïté Blanchette-Vézina, députée indépendante de Rimouski, ex-députée et ministre à la CAQ. On va parler avec eux de vote proportionnel. Ils ont fait une sortie publique commune aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 101.
Seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.
Émission On en jase, Boulevard 101, ton émission du midi de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV. Il est présentement midi 39. Hey, Pascal, ça bouge dans le studio. Là. On a de la visite, ça n'a pas d'allure.
On a de la visite politique. Es-tu surpris?
Parce
que
non,
même
pas surpris.
Si on vient d'annoncer le nouvel album de Marc Dupré, nous autres, on a déjà fouetté au niveau politique.
Ah, ouais. On n'écoutera pas les nouvelles chansons de Marc Dupré.
Je faisais juste un nommé comme ça de façon très rapide pour les grands fans.
Non, on a de la belle visite ici en studio. Premièrement, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Éric,
salut.
Comment vas-tu?
Très bien.
Maïté Blanchette-Vézina, avec qui on a eu la chance de parler au téléphone plusieurs fois, première fois en personne.
Bonjour.
Très heureux de te rencontrer. Ça va bien?
Ça va très bien. Merci de l'invitation.
Ben oui. Là, ma première question à poser, êtes-vous rendu dans le même parti politique?
Non.
Pas encore? Mais vous avez des idées communes?
Ben, moi, je l'ai dit que je travaillais de manière transpartisane avec tous ceux qui souhaitent mettre de l'avant une vision porteuse pour les régions. Puis Éric... cette envie-là. Donc,
oui, on a des idées communes sur les régions, puis on a surtout, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui on est ici, on a des visées communes au niveau des réformes démocratiques. C'était ça aujourd'hui qui était l'objet de notre conférence de presse un peu plus tôt aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Puis Jean-François a dit « pas encore dans le même parti ». La réponse était « je pense que je l'ai manqué ».
Pas encore dans le même parti?
Ben, en fait, moi, je travaille de manière transpartisane et c'est ce que j'ai dit à mes citoyens. J'ai continué de travailler comme ça.
Alors, point de presse matin?
Oui.
Commun?
Oui, exactement, sur le vote proportionnel. Et avant de commencer à vous questionner là-dessus, je vais vous faire entendre François Legault le 2 octobre 2018.
Engagement d'un scrutin proportionnel avec les résultats que vous avez eu, 37 % d'appui. Est-ce que vous allez respecter cet engagement-là?
Oui, on a pris l'engagement avec trois autres partis, si j'inclus le Parti vert, de déposer un projet dans la première année. Donc, ça sera fait.
Alors, M. Duhaime, si je comprends bien, ça ne s'est pas fait, hein, si on en parle aujourd'hui?
En fait, il a déposé un projet de loi qu'il n'a jamais adopté. Fait qu'il l'a laissé mourir au feuilleton en langage parlementaire. Mmh. Fait qu'il a... C'est ça. Le parti, il faut comprendre, le parti de M. Legault avait promis une réforme du mode de scrutin. Il disait que c'était la dernière fois en 2018 qu'on votait pour le mode de scrutin traditionnel, qu'il allait y avoir une forme de proportionnel régional. Et malheureusement, il a abandonné cet engagement-là parce qu'il disait que les gens ne se battaient pas dans les autobus pour une réforme du mode de scrutin. C'était ça son argument principal.
Et là, pour que les gens comprennent bien, s'il y avait eu une élection proportionnelle en 2022, la CAQ, 90 députés, après l'élection qu'il y en avait 90, parce qu'il y en a moins, la preuve, on a Maïté Blanchette-Vézina avec nous, donc aurait eu 75 députés. Oui. Le Parti libéral du Québec, alors c'est moins 15. Le Parti libéral du Québec à 21 aurait eu 16, donc c'est moins 5. Les trois autres partis auraient gagné au change. Québec solidaire, qui en avait 11, en aurait eu 14, donc plus 3. Le Parti québécois, qui en avait 7, qui en avait 3, en aurait eu 7 de plus pour 10. Et le Parti conservateur du Québec, qui a 0 député malgré 12,91% des votes, aurait eu 10 députés. Ouais.
C'est la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec. Jamais un parti politique a eu autant de votes avec aucun député. On a eu 530 000 votes, plus que 530 000. Puis ça veut dire qu'on représente plus qu'un Québécois sur 8, puis on a 0 député sur 125. Donc, suite à ce résultat-là, nos membres se sont réunis en congrès en novembre 2023, puis on a adopté le projet de loi de la CAQ. Fait que notre programme, nous autres, c'est le projet de loi de la CAQ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai été avec Maïté Blanchette-Vézina pour parler de ça, parce que c'est les membres qui ont décidé qu'on allait de l'avant. Et s'il y avait une élection aujourd'hui, parce qu'il y a le sondage de ce matin dans le Journal de Québec, là, la CAQ est à 17 % puis il y aurait entre 0 et 1 député.
Ouais.
OK? Fait que ceux qui vont goûter la prochaine fois, c'est pas nous autres. Nous autres, on aurait 9-10 députés. On aurait à peu près le même nombre que ce que un scrutin proportionnel nous donnerait. La prochaine victime, ça sera pas nous, ça va être la CAQ. Fait que là, ils ont un intérêt cette fois-ci à passer de la parole aux actes et à adopter leur vieux projet de loi.
Est-ce que vous sentez que vous êtes en cohésion, chacun des partis, autre que la CAQ, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'ils vont avoir plutôt avoir une image de se faire prendre en grippe là-dessus pour les prochaines élections. Mais est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous jasez de ça à porte close? Parce que là, clairement, bon, PSPP n'est pas ici avec vous aujourd'hui dans la tournée, mais comment ça se passe à porte close?
En fait, on était ce matin, c'est à la demande de Québec solidaire qu'on a été, on a fait un point de presse commun. Alors, QS est formellement pour. Ils ont déposé leur projet de loi qu'ils avaient déposé à l'ancienne session. Et le Parti québécois mentionne qu'il est toujours d'accord avec cette réforme. Il a même réitéré à M. Charbonneau, qui était avec nous, de Mouvement Démocratie Nouvelle. Alors, est-ce que le Parti libéral a intérêt à voter pour une telle réforme du mode de scrutin? Bon, je pense qu'historiquement, ils ont refusé de le faire. Mais là, il y a une occasion, comme M. Duhaime le mentionnait, de faire différent et de faire adopter cette loi-là d'ici la prochaine élection. Et ça pourrait les avantager, peut-être pas pour cette élection-ci, mais pour la prochaine au moins.
C'est vrai que le timing est probablement le meilleur qu'il n'a jamais été, parce que personne n'a de garantie de rien. Parce que c'est sûr que, moi, je vous écoute parler, puis moi, je suis la politique depuis que j'ai 15-16 ans. Là. Ça revient comme les saisons, là, cette affaire-là. Là.
Ouais.
Je veux dire, ça fait augmenter le cynisme, parce qu'à chaque fois qu'un parti n'est pas assuré de gagner selon les règles actuelles, ou perd, ou n'a pas assez de députés à son goût, ben là, il est pour la réforme du mode de scrutin. Quand on est au gouvernement, puis qu'on a gagné avec les règles actuelles, tout à coup, c'est plus la priorité du moment. Quand vous avez décidé d'embarquer là, dans ce dossier-là, puis de faire cette sortie-là, est-ce que vous vous êtes posé la question, parce qu'il y a beaucoup de cynisme, de dire hey, « on va-tu vraiment revenir encore avec ça alors que finalement, ça fait toujours patate? »
C'est certain que c'est démotivant pour les citoyens. Le nombre de fois où des gens, soit du Parti conservateur, des gens qui ont voté pour d'autres partis que celui qui gagne historiquement, là, moi, je suis du comté... historique du PQ. Je n'étais pas du PQ. Mais je l'entendais. Qu'est-ce que ça me donnerait? De toute façon, ma voix est comme perdue. Ça donne rien de voter pour pas le PQ. T'sais. Dans mon comté, c'était ça, mais on a réussi à rentrer pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que ça alimente cette espèce de perception-là que si je vote pas pour celui qui est peut-être en avance dans le sondage local, ben ça donne rien que j'aille voter. Puis ça, c'est triste, je trouve.
Oui, puis Antonine, ta question est d'autant plus pertinente que aujourd'hui, le Parti québécois n'est pas venu à la conférence de presse. C'est quand même bizarre que le Parti québécois, qui a toujours été en faveur d'une réforme du mode de scrutin, d'ailleurs Jean-Pierre Charbonneau, qui nous accompagnait, il est ancien président de l'Assemblée nationale, ministre péquiste, notamment de la réforme démocratique, que le Parti québécois décide de ne pas venir. Puis là, quand on regarde le sondage ce matin, je vais faire mon cynique deux secondes, là, 32% puis tu gagnes majoritaire. Est-ce que finalement, ils trouvent que le système n'est pas si pire? C'est la question que je me suis posée ce matin. Je me suis demandé s'ils n'étaient pas là parce qu'ils ont calculé que finalement, si on gagne à 32%, finalement, le mode de... Puis on gagne 100% du pouvoir, là, comprenez? Ils seraient majoritaires. Il y aurait peut-être 80 députés. Il y aurait les deux tiers de la Chambre qui seraient péquistes avec 32% des votes. C'est ça la distorsion démocratique à laquelle on va assister. Là.
Est-ce qu'on devrait avoir une agence indépendante qui planche sur le dossier puis qui dit aux élus, voici ce qu'on devrait faire pour que la population soit mieux représentée? Parce que vous le dites très bien, M. Duhaime, t'sais, peu importe qui est au pouvoir, il va s'accrocher au mode de scrutin traditionnel.
Bien, je pense pas qu'il faut adopter un mode de scrutin puis une réforme démocratique de façon antidémocratique. C'est-à-dire que je veux dire, on vit dans un système parlementaire britannique qui a des défauts, là, puis on en parle aujourd'hui, mais il y a aussi des qualités quand même. Là. Il assure une certaine stabilité. On a quand même la chance de vivre dans une des plus vieilles démocraties d'Occident. Il faut quand même le reconnaître. Cela étant dit, il est perfectible, notre moyen. Puis je pense que Maïté, ce matin, a mis l'emphase sur d'autres régimes ailleurs dans le monde qui ont bonifié leur mode de scrutin, comme exemple.
Exact. Nouvelle-Zélande, ça a amené vraiment un travail de collaboration, là, c'est ce que je nommais. Là je suis indépendante, je suis là aujourd'hui pour en parler, mais ce travail-là avec d'autres partis qu'uniquement celui avec lequel on a été élu, ça fait... Je pense que les citoyens aiment ça aussi, qu'on travaille en collaboration, et c'est ça que ça a amené en Nouvelle-Zélande comme la réforme, ce travail de collégialité-là que les Québécois, je pense, apprécient aussi. Est-ce que d'avoir une agence qui travaille là-dessus de manière indépendante, ce serait la bonne solution? Après ça, il faut quand même que le processus démocratique se fasse. Ça prend une volonté du gouvernement en place de faire avancer ce dossier-là. Et je le répète, je pense que s'il y a un moment dans l'histoire où le gouvernement en place a tout intérêt à changer le mode de scrutin,
ben oui,
c'est maintenant. Donc, moi, j'ai un peu lancé l'appel à des collègues.
D'où la stratégie
là,
de sortir aujourd'hui.
Exact.
Là.
Ben oui, parce que pensez-y, là, la CAQ, là, on assisterait vraiment à quelque chose. Puis probablement que la prochaine élection risque d'être très historique pour le Québec. Là. On passerait d'un gouvernement qui a élu 90 députés à zéro. C'est jamais, jamais, jamais vu dans l'histoire du Québec un retour. Puis il y a des signes avant-coureurs. Là. Moi, j'étais dans une élection dans Arthabasca il n'y a pas longtemps. Là. La CAQ est passée de 52 % à 7 % d'une shot. Là. Donc, il y a des signes avant-coureurs qu'on risque d'assister à ça. Fait que s'il y a un parti qui va voir la lumière au bout dans le dossier-là, je pense que c'est la CAQ à l'heure actuelle.
Est-ce que vous pensez que vous le faites quand même pour vous, les partis? Parce que d'abord et avant tout, ce serait pour les électeurs. La réponse politique est facile. C'est pour les électeurs. C'est pour une meilleure représentativité. Puis façon aussi de sonder les gens. Mais est-ce que vous pensez que vous le faites de façon biaisée, consciente ou inconsciemment, plus pour les partis en ce moment?
Ben moi, je suis sans parti. Donc, je pense que je peux vous parler en toute transparence et franchise. Le Québec aurait besoin de cette réforme-là parce que l'épisode du bipartisme, je pense qu'il est derrière nous. Là. Il y a des partis, il y en a cinq en ce moment là, qui sont plus majoritaires, mais cet épisode-là du Parti québécois, alternance Parti québécois, Parti libéral, ça, je pense pas que ça va revenir complètement. Alors, si on veut passer dans la modernité, avoir une vie démocratique saine, ben ça prend cette réforme-là.
Maïté, vous le disiez, vous êtes indépendante. Est-ce que vous avez l'intention de vous représenter à la prochaine élection? Je m'excuse si ça a été mentionné.
Oui, je
l'ai loupé.
Oui, mais je suis bien consciente qu'être indépendant, c'est difficile de se faire réélire dans un système comme on le connaît en ce moment.
Ouais.
Mais j'ai mentionné que je veux terminer mon mandat et que oui, j'ai envie de me représenter. Bon, il reste un an. Je vais voir pour la suite.
OK, intéressant. Puis vous, de votre côté, M. Duhaime, bon, oui. Il y a eu l'élection partielle dans Arthabasca. Je ne vais pas vous poser la question si vous vous représentez. Là, je pense que c'est assez clair. Mais on est tombé sur un article dans un journal local de Bellechasse.
Oups, qu'est-ce que j'ai dit?
Pas vous, okay. Mais votre ancien candidat, oui. M. Tardy, disait « Ah, oh, je ne suis pas sûr, je vais me représenter parce que c'est possible que je doive laisser ma place à un candidat d'envergure, à un gros nom. » Puis là, moi, je me suis dit, ben là, un gros nom, là, c'est Éric Duhaime. Est-ce que vous allez vous présenter dans Bellechasse en 2026?
Vous souriez, M. Duhaime?
J'ai pas encore décidé dans quelle circonscription j'allais me présenter. C'est sûr, comme vous venez de le dire, je vais me présenter à la prochaine élection. Je pense que ça fait doute dans l'esprit de personne. Mais la dernière fois, j'ai annoncé mes couleurs dans Chauveau très à l'avance, puis mes adversaires ont dépensé énormément d'argent en subventions de toutes sortes. Les organismes se faisaient tellement appeler qu'ils ne savaient plus quoi dire comme projet pour pouvoir avoir des fonds publics. Donc, plutôt que de me retrouver avec l'artillerie lourde, là, je vais essayer de les surprendre. Ça va être moi, ce coup-là, qui va être un peu plus snoro qu'eux autres.
Je veux dire, Appalaches, ça semble intéressant pour le Parti conservateur, pour Éric Duhaime. On se cachera pas. Tu, parce que j'ai travaillé avec toi auparavant dans les médias, est aussi connu de tout ce qui est sphère médiatique, auditeur. Mais Chasse, on a lu entre les lignes, petit fantasme politique, c'est Lévis. Quoi? Qui est là à Lévis,
Bernard,
du côté de la CAQ? Bernard
Drainville. Notre ancien collègue Bernard Drainville.
Avec qui tu co-animais. Est-ce que ça, c'est une possibilité?
Ça serait un beau face-à-face, hein?
Assez intéressant pour y aller.
Triquet ici.
Il y a personne qui répond. Mais regardez, Pascal a dit Lévis, Antonine a dit Bellechasse, moi j'ai dit la Pelletrie pour aller remplacer Éric Kerr.
Ça, c'est Éric
Kerr. Donc, M. Duhaime, on voulait choisir.
Tabarnouche, j'ai le choix des cadeaux.
Et voilà, le choix des cadeaux.
Votre attaché de presse est derrière.
Madame Blanchet.
Je cherche pas de compter, lui, inquiétez-vous pas.
je terminerai cette très belle entrevue, puis merci beaucoup d'avoir été avec nous. Madame Blanchet de Vézina, je veux vous entendre sur la fameuse réforme forestière. Je veux pas, oui. Ça a fait jaser hier avec la vision économique du premier ministre, c'est-à-dire lundi, où il a dit hey, « Écoutez bien, les emplois dans le bois d'œuvre, là, pas grave, on va les envoyer ailleurs. » Et là, ce matin, j'entendais à l'émission de Mario Dumont sur LCN, le maire de Latuc qui disait « Ouais, ben coudonc, on va vider ma ville, puis moi, j'aurais
totalement,
rien à dire. »
Exactement.
Vous en pensez quoi là, de
ben,
tout ça?
C'est l'équivalent de dire, pendant les feux de forêt, qu'on va laisser brûler Clova. Là,
ouais.
Mais je dirais que donc, c'est ça, 30 000 emplois, c'est majeur
ben,
pour
oui.
La région.
Puis c'est pas vrai qu'on peut tout requalifier ces gens-là. Je pense aux travailleurs, puis là, je vais nommer un stéréotype, là, mais de 56 ans que ça fait 30 ans qu'ils travaillent dans le bois d'œuvre.
Ben non, mais il est dans une usine, il faudrait qu'ils se faire former pour aller. Je pense que la proposition, c'est d'aller construire des lignes d'hydro ou des éoliennes. C'est pas des vases communicants, puis le maire de là-dessus que a raison. Il va aller se faire former à Trois-Rivières. La personne va quitter quitter les villages. Là. C'est pas là qu'il y a de la formation qui se donne là, à Saint-Michel-de-Squatec ou ailleurs au Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est ridicule, j'ai envie de vous dire. Puis c'est triste parce que ça me donne l'impression qu'abandonner ce secteur qui est important pour le Québec économiquement, là, c'est une part importante du PIB. Puis c'est des emplois qui sont payants dans les régions du Québec. Ça va vider les régions du Québec et de l'abandonner le secteur. Mais il y a des solutions sur la table. Moi, je sais, là, j'en ai travaillé. Il y avait du financement dans le budget, dans le dernier budget au mois de mars pour une stratégie industrielle pour le secteur forestier. Qu'en est-il de cette stratégie?
Oui, elle est...
Il n'y a pas de solution là, en ce moment. C'est 30 000 emplois, requalifiez-vous, allez travailler dans le nord, quelque part, dans les mines.
Avez-vous l'impression qu'on vous a éjecté du Conseil des ministres en même temps que votre réforme? Puis on a dit, on s'en occupe plus?
Ben je pense que ce n'était pas pertinent et prioritaire pour le premier ministre, puis on en a un très bel exemple aujourd'hui, malheureusement.
Si Maïté Blanchette Vézina est avec nous aujourd'hui, là, puis qu'elle a quitté la CAQ, c'est parce que le parti au pouvoir a abandonné les régions. Mm-hmm. Et c'est une autre démonstration de ce malheur-là, de penser qu'on va construire des barrages avec les 15 000 travailleurs ou 30 000 travailleurs qu'on va aller chercher dans l'industrie forestière. D'abord, ça se fait pas comme ça. Deuxièmement, un coup que le barrage est fait, il arrive quoi avec ce monde-là? Puis c'est dans la vision de François Legault là, de tout vouloir concentrer sur ses projets à lui, souvent publics, malheureusement. Et moi, je l'ai vécu dans le dossier aussi du gaz naturel. J'y en ai parlé au premier ministre. Le gaz naturel, là, vous l'avez promis, un autre engagement, une autre promesse rompue de la CAQ. il m'a dit, bien, je peux pas parce que si on n'aura pas d'employés dans les régions pour aller travailler dans cette industrie-là, ben j'ai besoin d'eux autres pour Hydro-Québec.
Donc, c'est ça son argument.
Mais sauf que pendant ce temps-là, il y a combien de milliers de travailleurs québécois qui sont partis puis qui aujourd'hui travaillent en Alberta sur les chantiers gaziers puis pétroliers? On a envoyé ces gens-là. On préfère les envoyer à 2-3 000 km dans une autre province que de les faire travailler dans des régions du Québec. C'est un manque de vision totale de la part du premier ministre.
Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, Maïté Blanchette-Vézina, députée indépendante de Rimouski, peut-être du Parti conservateur bientôt. Hein? On lui a posé la question, Pascal.
On n'a pas encore eu de réponse. On a eu une réponse politique.
On verra.
J'adore ça. C'est comme la réponse politique de M. Duhaime en ce qui est après où est-ce qu'il va se présenter.
Non, merci de ramener à la... Merci de ramener à l'avant-plan le vote proportionnel. Je pense que ça ferait très bien notre démocratie de l'avoir. Alors, merci beaucoup de le faire. Et on vous souhaite une belle tournée médiatique parce que là...
on se le fait
Éric,
dire.
Éric, là, je me fais dire quoi?
Okay. Merci tout le monde. Bonne journée.
Merci. Salut, merci tout le monde.
Yes. Pascal, qu'est-ce qu'on... Ouais, vas-y donc.
Je veux juste dire que dans l'entrevue avec Mme Blanchette Vézina, il y a quand même une pointe directement pour laisser brûler Clovan. Non, c'est intéressant. Peut-être que la grogne était bien installée depuis plus longtemps qu'on pensait auprès de François Legault par rapport à Maïté Blanchette-Vézina. Sur la route aussi, je dois signaler quelque chose qui s'est passé. Là. Congestion importante à l'arrêt, en fait, depuis 5 minutes au moins, sur la 20 ouest. C'est un peu plus loin d'ici, mais c'est un peu après le Madrid. Donc, 5 à 10 km sur environ 10 km où c'est une congestion complète. Alors, à l'arrêt, sur la 20 ouest, il y a des gens qui prennent la route. Sachez-le, mettez le GPS au pire la 40.
Est-ce que on a plusieurs textos qui sont rentrés durant l'entrevue? Bon, plusieurs gens qui sont en faveur justement du vote proportionnel, sans surprise. Il y a un autre auditeur qui dit « Ben voyons, si Éric Duhaime avait des chances de rentrer au Parlement et de faire élire 30 députés, pensez-vous vraiment qu'il dirait ça aujourd'hui? »
Et voilà, hein, c'est le cynisme toujours, entourant cette question-là. Puis honnêtement, c'est comme décourageant parce que dès qu'ils se mettent à être avantagés par le système, il change d'idée.
Bien, la preuve, c'est le PQ présentement que je comprends pas trop, pourtant.
Ouais. Ben,
pourtant, c'est dans les gènes, me semble, du PQ de.
Ça a toujours été dans le programme.
Oui, de faire en sorte que le vote, justement, d'une personne ait un impact.
Bien, il y en a un, mais tu sais, aussi à un moment donné, puis j'avais le goût de leur poser la question, puis je me suis un peu retenue, mais au lieu de mettre de l'énergie à changer de mode de scrutin, c'est noble. Mm-hmm. Mais à un moment donné, mettez de l'énergie peut-être à gagner selon les règles actuelles, parce que, je m'excuse, je suis cynique, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrête pas de faire patate à chaque fois. Mais... là, j'avoue que le timing est quand même exceptionnel. On verra. Mm.
Sors tout ça, Antonine, de l'équation, là. Est-ce que ce serait meilleur pour les électeurs?
Bien, en fait, l'idée que ton vote vale plus, je pense qu'on ne peut pas être contre ça. Puis c'est vrai que ça viendrait baisser un peu le vote stratégique et ça augmenterait un peu le vote de valeur, j'ai envie de dire. Parce que tu pourrais voter pour quelqu'un dans ta circonscription, mais voter pour un parti. Puis là, ça serait des candidats d'une liste, en tout cas, si c'était le même système qui était proposé par la CAQ il y a quelques années.
Bien, tu sais, si on prend, par exemple, s'il y avait eu le vote proportionnel en 2022, je vois quand même qu'il y a 10 députés du PCQ, ce qui est intéressant parce qu'il y a du monde à droite de l'échiquier politique au Québec. Et il y aurait eu 14 députés de QS au lieu de 11. Donc, c'est intéressant aussi parce qu'il y a du monde à gauche sur l'échiquier politique.
Ça avantage pas juste un bord.
C'est ça. Donc, mais, moi, mais c'est ce que je trouve intéressant.
Je vais dire un gros mot, mais ça avantage un peu plus les extrêmes. Donc, on a vu, par exemple, dans des proportionnels purs, dans des systèmes qui sont rares, mais par exemple, en Israël, c'est comme ça, beaucoup plus de présence de partis qui sont plus marginaux. Dans l'équivalent de leur Assemblée nationale. Donc, ça voudrait dire, tu sais, en ce moment, on a comme toujours un peu des partis centristes. Puis c'est très stable. C'est vraiment la tradition anglaise. Il y a pas de... On n'est pas révolutionnaire, on est calme, il y a beaucoup de continuité. Donc, ça change un peu la culture politique de changer de mode de scrutin.
Oui. La preuve à ça, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a essayé justement d'amener Québec solidaire plus au centre.
Ben, c'est
parce qu'on le sait qu'il faut être au centre pour gagner. Oui. Vous en pensez quoi? Puis je lis un dernier texto d'un auditeur sur le fait qu'il trouve qu'on entend un peu trop Éric Duhaime. Il est tanné de l'entendre parler de distorsion démocratique.
Parce qu'il y a des gens qui trouvent qu'il se victimise puis qu'il chiale.
Et je lui ai dit dans Marceau le matin, j'étais un de ceux qui a dit « Moi, Éric, j'ai pas embarqué dans ta campagne à Arthabasca. » Je le répète au micro, je lui ai dit, fait que j'ai pas de joindre. J'ai pas embarqué dans ta campagne en Arthabasca de dire « Hey, il faut absolument qu'Arthabasca sauve la démocratie puis vienne justement régler cette distorsion démocratique-là. » Ça appartenait pas aux électeurs d'Arthabasca.
Ben, c'est un peu ça. Puis là, on est encore là-dedans à dire « Moi, si je gagne pas, c'est parce que les règles m'avantagent pas. » Fait que ça peut envoyer ce message-là. Cela dit, c'est un dossier qui dépasse de loin loin les intérêts personnels d'Éric Duhaime ou de Maïté Blanchette-Vézina. Ça fait des années. Puis je salue quand même Jean-Pierre Charbonneau parce qu'il lâche pas, là. Honnêtement.
Oh non!
Là, ça fait des années qu'il milite pour ça. Puis honnêtement, tu sais, c'est... Il y a eu beaucoup de revers. On est passé très, très proche. On est passé très... Pascal a échappé quelque chose.
Non, non, c'est parce que les techniciens viennent m'entourer d'ordinateurs, de pieds, de fils, de je peux plus bouger.
Puis je le vois que ça t'a déstabilisé. Et là, le truc vient de tomber. La face que t'as faite, là. Je peux pas m'empêcher de rire.
Moi, je faisais comme si de rien n'était, mais déjà, pas été capable.
Non, j'ai pas été capable. Je vous l'ai dit, je suis un peu énervé aujourd'hui.
Je suis dans une cage.
Ouais. Alors, tout ça pour dire merci aux auditeurs. Très beau texto qu'on a reçu, Pascal, Jeff et Antonine. Merveilleuse émission, équipe de feu. Ben merci. On l'a fait pour vous, cette émission-là, puis on souhaite vraiment vous intéresser au monde politique et à l'actualité. Donc, quand vous nous écrivez des beaux messages comme ça, on se dit que c'est mission accomplie. Pascal, on va te laisser reprendre tes sens. On va faire des manchettes après la pause, puis après tes manchettes, ça va être Lambert Drainville qui va s'installer avec nous. Évidemment, Lambert veut nous reparler de tout ce sondage-là, puis la CAQ, puis François Legault, mais il veut aussi nous parler de... des médecins qui gagnent dans l'opinion publique contre la CAQ à l'heure actuelle. Et de beaucoup. Donc, est-ce qu'on s'est trompé finalement avec cette fameuse loi 2 matraque? Moi, je me souviens, c'est une Pascal CV qui avait dit « Pas sûr, c'est un bon coup politique. Hein? » Ben, mais c'était pas trompé d'après moi, un Pascal CV.
J'aime ça réfléchir à des affaires que personne ne veut m'entendre.
Tu me levais le doigt, t'avais-tu quelque chose à dire?
Puis j'ai une belle confirmation que je vais annoncer tout de suite, si tu me permets, parce que c'est entré pendant qu'on faisait notre, notre conférence de presse. Ça va, madame?
Ben, ça avait l'air d'une
conférence.
Ouais, mais ça avait l'air d'une conférence de presse.
C'était comme une grande assemblée, là, je sais pas.
C'est vrai, on était autour d'une grande table ronde.
C'était vraiment plaisant. Mais on avait invité des gens du politique à venir au combat de boss et pendant qu'on a au combat de lutte et pendant qu'on a je suis vraiment désolée, moi tout me tombe sur la tête. On a un combat de lutte le 21 novembre.
Oui.
Un gala.
Oui.
On est vraiment content de le faire parce que c'est le profit de la bouchée généreuse.
En plein ça.
Il y a Yann Marceau qui affronte, entre autres, Virginie Gagnon de TVA. Antonine est une des coachs qui va avoir fort probablement à sortir un peu de caractère et on adore ça dans les rings. Et on avait invité des gens à venir encourager, à venir participer, puis c'est fait. En fait, pour ce qui en est du parti de Bruno Marchand ici à la mairie de Québec, on peut confirmer qu'il y a 4 élus qui vont être au gala de lutte le 21 novembre prochain. Élénie dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, Raymond dans Limoilou sera là, Marie-Lou dans Mézeray et Clément dans Vanier. Alors, la Ville de Québec se mobilise. On invite le parti de Stéphane Lachance à se mobiliser aussi et ceux qui ont envie de venir, de mettre un petit 20$ qui s'en va directement à la bouchée généreuse.
Mais là, on va garder Respect citoyen Québec fort et fier dans le ring de l'Hôtel de Ville. On les amènera pas dans le ring.
Non, il faut pas qu'ils se battent là, sur place.
Non, c'est
là.
Ça.
Non.
Faites attention. Justin, il s'est déjà battu contre Brazo là, à boxe.
Ouais, c'est pas vrai. Notre but. Sinon, on va garder des portes très, très près. On va mettre ça près d'Antonine s'il se passe une chicane, quoi que ce
moi,
soit.
Moi, je dirais, tu te rassois. Rassois-toi.
Justin, faites plein de choses en politique qu'on n'aurait jamais cru qu'il pourrait être fait. Bon, parenthèse Justin Trudeau fermée. Sinon, je vais me faire taxer d'être un Pierre Poilievre de moi-même. On fait une courte pause à Boulevard 101. À l'émission d'En Jase. Lambert Drainville et l'essentiel de l'actualité s'installent après cette courte pause sur les ondes de Boulevard. Il est présentement 13h07. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Pascal CV. Avant la pause, on vous a promis un Lambert Drainville et l'essentiel de l'actualité comme il est au bout. Du fil, on va le rejoindre immédiatement. Lambert Drainville, chroniqueur politique pour nous et excellent vulgarisateur sur les médias sociaux. Comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Lambert, là, faut que je te le dise.
Ouais.
Pascal Cévive, là, 2 semaines, elle t'a dit, ben voyons, Lambert Drainville, cette loi matraque-là, c'est pas un bon coup politique pour la CAQ. Puis là, t'as dit, ouais, mais ils ont pas le choix, faut qu'ils bougent, sont à un an des élections. Mais là, aïe, 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 est-ce que Pascal Cévive avait raison, Lambert Drainville? Parce que l'opinion publique est rendue qu'elle se range derrière les médecins. Ce que je n'aurais pas cru possible, honnêtement, quand j'en jasais cet été.
Ben, ça en dit long sur leur stratégie de communication. Tu sais, présentement, ce qu'on apprend dans les sondages de ce matin, c'est... Ben, c'était hier, en fait, que c'est sorti spécifiquement aux médecins, mais 47% des gens sont en désaccord avec la réforme du mode de rémunération des médecins. 73% sont inquiets que les médecins quittent et aient pratiqué ailleurs. Donc, ceci explique cela. Là. Les gens ont peur que les médecins quittent le Québec, ont peur de perdre leur médecin de famille Ils sont donc maintenant, parce que l'opinion publique a changé, il y avait des sondages plus tôt cet été qui disaient que la majorité des gens étaient d'accord avec cette initiative-là. L'opinion publique, ils sont en train de la perdre, c'est pas compliqué. Pendant que les médecins louent le Centre Bell en fin de semaine, ben le gouvernement, eux autres, font des webinaires.
Ouais.
Webinaire, puis ils disent ça en période de questions. Écoutez les webinaires. Hey, ça va-tu mal à la shop? C'est une catastrophe de communication quand en réponse à savoir qu'est-ce que ça va changer ta loi, c'est écouter le webinaire.
Mais là, tout le monde qui a écouté le webinaire, c'est même pas ce qu'il y a dans ce webinaire-là quand Philippe de l'écouter tellement c'est compliqué.
je sais pas si vous l'avez écouté, mais moi je l'ai écouté, puis tabarouette, il a fallu que je me fasse un café parce que c'était à, genre 7h le soir, puis tabarouette, c'était animé par des gens du ministère sur des acétates bleus, puis on pouvait pas poser de questions.
Ah non, c'est ça. C'était pas de la communication là, très attentive, là, puis même de l'écoute attentive, on voyait que les gens perdaient le fil, puis ça allait pas dans les questions essentielles, puis effectivement, le fil de questions était fermé, il fallait même faire approuver sa question par un modérateur. Je pense pas que c'est comme ça non plus qu'on a réussi à aller chercher un petit peu plus de douceur de la part des médecins. Là.
Ben non, puis la réponse à laquelle ils ont pas été capable de donner une question, la question à laquelle ils n'ont pas été capable de donner une réponse, c'est comment ça va améliorer le réseau. Parce que sur le principe, même dans le sondage qui semble pourtant catastrophique au niveau de l'appui à la loi, quand on pose aux gens, êtes-vous d'accord avec le principe de lier la rémunération à la performance, c'est beaucoup plus égal, on tourne autour du 50-50.
Mm-hmm.
Donc, on en revient à la conclusion que la question, encore une fois, à laquelle ils n'ont pas été capable de répondre, c'est comment est-ce que ça va améliorer le réseau. Si les gens sont d'accord avec le principe, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Qu'est-ce que ça va changer pour toi? Puis c'est là où est-ce qu'ils perdent la bataille de l'opinion publique par rapport aux médecins. Puis, écoute, ils l'avaient de leur bord, ils l'ont perdu. Mais comme on se parlait dans une autre chronique, je vois pas comment le gouvernement recule quand même sur cette loi-là, au point où ils en sont rendus. Ils sont tellement rendus bas dans les sondages. C'est un gouvernement, dans une perspective de qu'est-ce que j'ai à perdre, c'est probablement l'endroit où ils sont le plus dangereux. Voyons voir comment ça se traduit pour la suite. Moi, je pense que de toute façon, j'ai parlé au président de la Fédération des médecins quand j'étais au Centre Bell dimanche. Il dit qu'il est prêt là, à se rasseoir sous peu avec le gouvernement. Je pense qu'il va y avoir des concessions qui vont être faites sur certains aspects du projet de loi qui accrochent plus. Et je serais bien surpris que, comme le souhaitent les fédérations de médecins, le gouvernement suspende cette loi-là.
C'est intéressant, ça, de savoir que tu avais vu et entendu cette ouverture-là. Puis je veux dire quelque chose qui se colle beaucoup à ce que Lambert dit. Il y a tout aussi la ventilation des corps de métier. Parce qu'en médecine, c'est super large, mais tu as la médecine familiale, tu as les gens qui travaillent en hôpitaux, tu as bien des gens qui sont concernés.
Tu as
les spécialistes. Les pharmaciens aussi avaient une partie, en fait, dans cette loi-là 2. Puis de plus en plus, on commence à entendre des cessations de bail pour certains endroits. On fait de la médecine familiale, entre autres, parce que ça vient couper énormément dans leur financement, puis ça les mène à la faillite. Là, tu te dis, faillite, es-tu sérieux? Mais quand tu habites en région, puis tu as un genre de petit centre en région de médecine, ça se peut qu'officiellement, tes frais soient plus élevés que ce que ça va te rapporter de faire de la médecine.
Mm-hmm.
Puis en même temps, c'est des gens qui vont être laissés un peu à eux-mêmes, qui n'ont pas nécessairement tout ce qui est autobus et autres pour aller consulter ou de la famille qui va aller avec eux à les rendez-vous. Fait qu'on voit des problématiques criantes qui commencent à venir à la surface.
Puis ça, Lambert, ça n'aura pas le choix de faire bouger et les médecins et le gouvernement parce que il n'y a pas un des deux partis qui veut voir des GMF, des cliniques fermées et surtout en région.
Oui, c'est ça. Bien, là, présentement, on va attendre de voir. Évidemment, là, l'impact en région, c'est qu'on a de la difficulté à répondre à ces questions-là. Il y a beaucoup de craintes qui sont soulevées par le nouveau projet de loi auquel on n'a pas de réponse à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Puis c'est là, quand je parlais de l'enjeu de communication du gouvernement, c'est qu'on n'a pas été capable de répondre aux questions fondamentales. On a garoché ça par baillon. Puis là, on est pogné pour rétro-pédaler, faire des webinaires puis mettre la porte dans le tube. C'est un bon exemple, celle des cliniques qui ferment. Est-ce qu'elles vont vraiment fermer? Est-ce que les médecins vont vraiment quitter? T'sais, la vérité, là, c'est que quitter là, sa pratique médicale pour des médecins qui ont bâti leur carrière dans un même milieu, parfois pendant plusieurs décennies, t'sais, changer de province, là, c'est recommencer à zéro, là, pas juste au niveau de la job. Là, t'sais. Donc, faut que tu trouves un nouveau poste, faut que tu t'intègres à une nouvelle équipe, faut que tu commences en bas de l'échelle de ta nouvelle équipe, faut que tu te refasses un nouveau bassin de patients, faut que tu déracines ta famille, les hypothèques, trouver une nouvelle école, une nouvelle garderie pour les flots. T'sais, c'est majeur là, de changer de place. Alors là, on entend qu'il y a beaucoup de gens qui font des demandes de permis de pratique pour ailleurs au Canada. Mais entre ça, puis je prends mes clics, mes claques, puis je déménage, la vérité, messieurs, dames, c'est que je serais quand même surpris là, qu'il y ait une masse critique de médecins qui quittent définitivement. Le gros enjeu présentement, c'est le gros risque, c'est le désengagement. T'sais, on sent que l'atmosphère est absolument épouvantable. Il y a des gens du milieu médical qui m'écrivent, qui me disent « Écoute, l'atmosphère dans les hôpitaux, l'atmosphère dans les cliniques est vraiment, vraiment pas bonne. Les médecins sont fatigués, ils se sentent attaqués, ils se sentent incompris. » Puis comme tu l'as dit, Jeff, ça, c'est pas bon pour personne.
Non, exactement. La démobilisation ne réglera jamais rien. Parlant de démobilisation, la population est démobilisée de la CAQ. Je le disais tout à l'heure avec Antonine, 61% des gens veulent que François Legault quitte. Seulement 1% des gens sont très satisfaits du gouvernement actuel. Mais à regarder François Legault aller dans ses réformes, on se dit, coudonc, il partira pas du tout. Toi, tu te penches où? Est-ce que tu te dis, OK, à un moment donné, il n'y aura pas le choix, il faut qu'il sauve son bébé ou il va couler avec son bébé?
Bien, moi, j'ai déjà dit que, on s'en est déjà parlé, moi, j'ai déjà dit qu'il devrait être très lucide par rapport à ça, que ce qu'il y avait en jeu présentement, c'est pas juste sa carrière politique à lui puis son legs à lui, c'est l'avenir de la CAQ puis du véhicule qui est la CAQ, la troisième voie qui est en jeu présentement. Ce qui fait plus mal avec ces chiffres-là, c'est pas vraiment qu'il soit encore une fois très bas, l'appui au PM. Ça, on s'y attendait. Lui-même s'y attendait. Il l'avait dit à Paul Arcand dans un balado il y a quelques semaines qu'il ne s'attendait pas à remonter dans un sondage rapidement. Bien, il avait raison. Mais c'est un désaveu parce que le moment où le sondage a eu lieu, bien, c'est la première fois qu'il y a un sondage qui suit son espèce de nouvelle stratégie qui visait à remonter dans les sondages, le remaniement ministériel, le virage à droite avec les quatre nouvelles priorités, les médecins.
La guerre aux syndicats également, de ce côté-là.
C'est pour ça, il misait beaucoup là-dessus pour remonter dans les sondages. C'était ça, sa stratégie. Puis là, il ne remonte pas. Alors moi, je pense que la réflexion doit se poursuivre de son côté par rapport à quelle va être la suite. Et je sais, messieurs, dames, quelle a lieu cette réflexion-là. Je vous le confirme. Je sais que ses conseillers lui en ont parlé. Je sais que c'est une réflexion qu'il a, malgré qu'à chaque fois qu'il prend la parole, il semble dire le contraire. Mais dans son fort intérieur, il pense à la suite des choses. Puis voyons voir comment ça se traduit.
Moi, je m'inquiète du parti pour plusieurs raisons. Je veux dire, c'est quand même un parti officiellement enregistré qui a fait certaines preuves, d'autres qui ont été décevantes, qui ont été des échecs. Mais il y a aussi beaucoup de fortes personnalités politiques à l'intérieur du dit parti. On les a peinturés pour plusieurs raisons, mais souvent dans le coin aussi, à tort. Ça veut dire que ce que le chef choisissait de faire, bien, ça tombait sur la tête de ses ministres ou ses députés. Puis je serais inquiète qu'on perde de forts politiciens avec une bonne feuille de route qui ont travaillé fort dans un genre de « on n'est pas arrimé pour la suite » puis on a tellement déçu que ça serait une décrépitude. On voit des gens quitter le bateau actuellement. On fait quoi de ce portrait-là avec la CAQ?
Bon, on continue. On continue sur leur plan de match. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Okay. Puis moi, ils en sont, comme je te dis, sur les nombreux dossiers sur lesquels ça chauffe. Moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Déjà, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Ils n'ont plus de crédit politique pour retourner leur chemise, encore une fois, sur des dossiers aussi importants. Ils l'ont fait trop souvent. Pensons au troisième lien, évidemment, là, à Québec, qui a fait réagir énormément.
Et tu vois ça comment Lambert en fait un ministre, un député, peu importe, là, quelqu'un qui a été élu au sein de la CAQ, outre François Legault, qui démissionne ces temps-ci?
Bien, il y a eu Lionel Carman, qui est un médecin. C'est sûr que c'est un message absolument pas bon pour quand le seul médecin, non seulement du gouvernement, mais de l'Assemblée nationale au complet, démissionne quand elle essaie de changer la façon dont les médecins sont payés. Puis Mme Poulet aussi, tu sais, qui a quitté également en lien avec la loi 2. Fait que c'est sûr que c'est Quand ça commence à tomber comme ça pour un parti politique, là, quand on arrive dans un deuxième mandat, puis c'est pas la première fois que ça arrive, regardez ce qui est arrivé avec Justin Trudeau, lui c'était son troisième mandat, regardez ce qui est arrivé dans toute l'histoire du Québec, les deuxièmes mandats pour les partis qui sont élus majoritaires, c'est toujours, toujours très difficile. L'usure du pouvoir, tu sais, on s'en est déjà parlé, mais quand t'es élu, t'as une petite proportion des gens qui ont voté pour toi. Dans le cas de la CAQ, c'est 40% en 2022. Tu sais, mine de rien, c'est moins d'une personne sur deux au Québec. Puis à chaque fois que tu prends une décision, ben il y a quelqu'un qui n'est pas content de ce que tu fais. Fait que plus tu avances, ben plus le nombre d'insatisfaits augmente. Puis déjà que tu étais à juste 40% des gens qui ont voté pour toi au début, ben ça descend, puis ça descend, puis ça descend.
Oui, c'est ça. C'est statistiquement, là, c'est un effet statistique.
Exact.
C'est ça.
Autant bien que tu as des bons ministres, ben qu'est-ce que tu veux, ils ont des jobs, puis il y en a un bon paquet là-dedans qui vont la perdre en 2026, fait que c'est sûr que ça crée des turbulences.
Lambert est un stratège politique. On parle de statistiques, justement, je regarde dans ce sondage-là, Québec solidaire à 8%, mais là, à la surprise générale, Québec solidaire dit pas vrai qu'on va laisser le ministre Boulay faire sa loi plus tôt puis ramener du service aux personnes défavorisées, aux personnes démunies de Montréal en transport en commun. On va se ranger du côté du syndicat.
On s'est souvent posé la question, JF, dans les dernières années, est-ce que QS est un parti destiné à être un parti militant ou c'est un parti qui peut aspirer éventuellement à gouverner?
On vient de régler ces militants?
Ben, je pense qu'on vient de le régler là, avec la dernière semaine qui vient de se passer. D'abord et avant tout, le choix de Sol Zanetti. On en a parlé avec Frédéric Morissette vendredi. Le choix de Sol Zanetti comme chef, moi j'étais très surpris de ça. C'est un petit peu un finger des militants à l'aile parlementaire, justement, à l'aile plus pragmatique. Mm-hmm. Alors qu'Étienne Grandmont perd la coparte-parole et c'est lui qui était appuyé par pratiquement tous les élus de QS.
Catherine Dorion et Émilise Lessard-Terrien ont gagné, mes amis.
Exact, celle qui avait foutu le feu en quittant.
C'est ça.
Puis là, ben, c'est que ça, c'est un choix qui démontre bien que les militants en sont de dire ben, écoutez, on est un parti de militants, puis on a choisi le coporte-parole militant. Et là, ben, évidemment, il y a tout ce qui se passe à Montréal avec la grève. Tu sais, bon, est-ce qu'on est surpris que Québec solidaire prenne le parti des syndicats? Non, pas vraiment. Ça, c'est dans leur ADN. Mais encore une fois, comme pour le choix de leur chef, sur la question de la grève à Montréal, ils choisissent le dogmatisme, ils choisissent le militantisme plutôt que le pragmatique, le pragmatisme, le gros bon sens. L'appui syndical pour Québec solidaire dans ce dossier-là compte plus que la solidarité envers les Montréalais eux-mêmes et les Montréalais vulnérables. Mm-hmm. Parce que qui sont, JF, les électeurs de Québec solidaire?
C'est les Montréalais sur l'île qui se promènent en transport en commun et qui vivent de façon plus verte et écologique.
Voilà, qui se transportent en métro puis en autobus.
C'est ça.
Et donc, comment ça va percoler auprès de leur électorat? Mm-hmm. Si t'as des gens à Montréal qui présentement se disent « Tabarouette, ça va-tu mal à la shop QS? » Arrive ça en plus, peuvent pas prendre le bus, puis Québec solidaire est le seul parti à ne pas vouloir que les choses... En tout cas, débloquer le dossier avec la mise en, avec la loi qui serait devancée pour forcer l'arbitrage entre la STM et leurs employés. Eh bien, il y a des gens qui peut-être présentement se disent « Ah, le Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, intéressant, hein? Je le trouve quand même chouette, j'hésiterais peut-être à voter pour lui. » Bien, il y a peut-être des gens qui vont dire « Moi, le Québec solidaire, là, quand vient le temps de se lever pour moi, qui ne peut même pas aller à la job, ils ne sont même pas là pour me défendre, bien, je ne voterai pas pour eux cette année. »
C'est ça.
On va traduit comme ça en 2026, il reste beaucoup de temps, mais c'est sûr qu'il y a des électeurs de Québec solidaire présentement qui ne sont pas contents du positionnement qu'a pris leur parti dans ça.
Alors, retenez ça, Québec solidaire n'est rien. N'est pas solidaire envers la population. Lambert, on termine rapidement avec la vision économique du PM de lundi. Moi, je vois quand même un mirage au niveau militaire parce que Joël Lightbound sur nos ondes nous disait « Ouais, ben là, les sous-marins, ça va être construit par les Allemands. » Là, aujourd'hui, on apprend dans la presse « Ouais, les avions risquent d'être construits en Suède. » On va-tu vraiment faire du cash puis de l'économie avec ce militaire-là?
La défense, c'est une industrie dont on parle. On n'a pas beaucoup parlé. C'était comme un peu. On en parlait sur le bout des lèvres au Québec, mais c'est quand même une industrie importante. Là. De 2015 à 2021, c'est 46 % là, des contrats fédéraux dans le domaine de la défense qui sont allés au Québec. C'est 15 000 emplois. C'est quand même du stock. Moi, je pense qu'effectivement, le gouvernement fait bien de se positionner pour avoir sa part du gâteau. Ils ont demandé à Investissement Québec de modifier les règles pour qu'Investissement Québec puisse subventionner puis soutenir les contrats de production militaire. Ils n'avaient pas le droit de faire ça auparavant. Maintenant, c'est possible. Alors, de s'ouvrir les portes, parce qu'il y en a pas mal de l'argent qui va être dépensé en défense au courant des prochaines années. Alors, je trouve ça bien que le Québec se positionne pour avoir, comme je disais, sa part du gâteau. Ça en dit long, par contre, sur à quel point on est dans une nouvelle ère. Hein? Je disais qu'on en parlait sur le
bout
des défense. Maintenant, c'est rendu comme ça passe dans du beurre. On a investi des milliards en défense. Les gens ne se posent pas de questions. Je trouve que sur ce que ça signifie par rapport à où est-ce que les Québécois, où est-ce que les Canadiens en sont. Tu sais, on le voit comme ça inquiète les gens, la situation en Ukraine, Trump. On voit que les gens sont prêts à investir en défense, sont prêts à en parler. Et de l'autre côté, ben pratiquement rien là, au niveau de la filière batterie qui avait été au cœur de la stratégie du gouvernement depuis quasiment qu'ils sont là au pouvoir. Il y a pratiquement rien là-dessus sur la filière batterie. Évidemment que le gouvernement veut peut-être s'éloigner de tout ce qui touche Northvolt, etc., rien sur la forêt aussi. Je pense que c'est important d'en parler. L'industrie du bois, très, très frappé présentement par les tarifs.
Et là, il y a les régions qui sortent, les petites municipalités. J'entendais justement le maire de Latuc ce matin dire « Coudon, vas-tu fermer ma ville? » Donc ça va être un boulet là, au pied de la CAQ.
Bien, écoute, cette industrie, c'est un fleuron québécois depuis plusieurs années. C'est une industrie qui avait déjà beaucoup de difficultés avant les tarifs, qui en ont encore plus avec les tarifs. Il y a de la difficulté à sortir la tête en dehors de l'eau. Il y a des villages, effectivement, tu parlais de Latuc, Maniwaki, Péribonka, qui sont encore des villages où plus de 50% des emplois dépendent de l'industrie forestière. Fait qu'il faut s'attendre à beaucoup, beaucoup de tragédies familiales et humaines de par le fait qu'on s'enligne pour perdre pratiquement un emploi sur deux, 30 000 emplois sur les 60 000 de l'industrie forestière au Québec dans les prochaines années. Très difficile. Et je trouve ça un petit peu, hypocrite, c'est peut-être un peu fort, mais un manque d'empathie à tout le moins du gouvernement qui dit « ben c'est pas grave, on va investir dans Hydro ». Tu sais, Hydro, c'est leur grosse stratégie, 200 milliards, leur nouvelle vision économique tourne autour d'Hydro. Ben, les employés de la forêt, on va vous requalifier. Qualifiez, vous viendrez, puis on va vous requalifier, vous voudrez travailler chez Hydro. Hey, t'as peu, là, t'habites à Maniwaki, t'habites à Latuc, t'as investi pour avoir des camions, de la machinerie forestière. Là. C'est pas vrai là, que tu vas vendre ça, puis là, tu vas déménager, puis tu vas t'en aller travailler pour Hydro, je sais pas où ailleurs au Québec. Là. C'est pas juste 1, 2, 3, puis tu changes ton name tag sur ta veste, puis t'es rendu que tu travailles pour Hydro. Fait que tu sais, bon. Un peu déçu, effectivement, qu'il n'y ait pas rien dans cette nouvelle vision économique-là pour la forêt. Je te dirais que pour Jean-François Simard, là, qui est de la région de Québec, justement, le nouveau ministre responsable des ressources naturelles des forêts, c'est tout un boulet qui vient de se faire donner. Jamais. Le premier ministre.
C'est dur à comprendre aussi parce que ça fait partie de nos ressources naturelles. Comme tu as dit, il y a énormément d'emplois, puis il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont refusé d'aller s'établir aux États-Unis. Et ça aurait sauvé la donne dans les années actuelles de faire un transfert ou d'ouvrir une succursale. Il n'y aurait pas eu ces tarifs-là appliqués, puis c'est absolument tout leur chiffre d'affaires qui en croule. Puis en plus, bien, c'est quelque chose qu'on devrait protéger. C'est à difficilement y comprendre quelque chose. Je suis tellement contente de t'en parler aujourd'hui, Lambert.
Ben écoute, c'est une industrie qui avait beaucoup de difficultés, hein? C'est une industrie qui avait déjà, comme je disais, de la difficulté à garder la tête en dehors de l'eau avant même l'imposition de tarifs. C'est une industrie qui était de moins en moins profitable. Puis de par leur non-support à l'industrie forestière dans leur nouveau plan économique, je pense qu'on peut pratiquement en déduire que le gouvernement a un peu abandonné sur l'industrie forestière. Et je vais laisser les gens à l'écoute se faire une tête à savoir. Est-ce que c'est une bonne chose de l'abandonner, considérant qu'elle était justement très, très déficitaire, ou si c'était à notre avantage de tout faire en sorte pour la garder en vie, cette industrie-là, qui a, encore une fois, été tellement importante dans l'histoire du Québec.
Lambert Drainville, c'est toujours un plaisir, mon chum, de parler politique avec toi. On se parle vendredi en compagnie de Farnell Morisset.
Yes, sir. Midi vendredi.
Yes, sir.
Le quatuor de feu.
Le quatuor de feu.
Faut jamais oublier Pascal.
C'est vrai. Elle nous sort toujours un petit crochet du doigt là, puis qu'on n'a pas vu venir.
Ah, direct venu de l'Everest. Bang. C'est ça, c'était Kilimanjaro.
Kilimanjaro.
Non, l'Everest, c'est le prochain.
C'est ça. Exactement. Exact. C'est vrai, on donne ce défi-là à Pascal. Hey, ouais. Tu paresseuse, ça peut même pas aller monter l'Everest.
Je vais monter mon Saint-Hilaire,
je vais laisser ça. Cool, salut Lambert Drainville.
Ciao.
Salut Lambert Drainville, que vous pouvez entendre sur nos ondes les mercredis et vendredis. Toujours un bonheur de parler avec lui. Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité en attendant? Marc Ranger, parce qu'on va parler avec Marc Ranger, spécialiste syndical de ce qui se passe présentement à la STM. On le sait, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, qui a sommé le syndicat des chauffeurs, également le syndicat des opérateurs de métro, de mettre fin à leur grève, comme ceux de l'entretien ont fait hier.
Écoute, je pense que c'est la nouvelle depuis qu'on a nommé que ça s'était passé dans l'émission hier midi, tout juste après avoir eu les informations, mais 12 ans après le meurtre de sa mère, pendant qu'il était dans la maison, il y a un jeune qui aurait tué sa grand-mère à coups de hache. C'est un drame horrible. C'est à donner des frissons. Ce serait survenu hier, dans la Naudière, en plein chaud. On vous parlait de tout ça. On avait peu d'informations à ce moment-là. Mais un adolescent de 14 ans qui aurait tué sa grand-mère à coups de hache. Ça, comme on vous dit, ça vient 12 ans après le meurtre de sa propre mère. Et il était à l'intérieur de la maison quand ça s'est passé. Donc, on peut maintenant parler du fait qu'il est mineur. Alors, on ne l'identifie pas pour cette raison-là. Il l'a comparé hier soir sous un chef d'accusation de voies de fait graves à l'égard de sa grand-mère de 73 ans. Plus tard en soirée, la septuagénaire a succombé à ses blessures. Alors, elle est décédée et l'adolescent devrait désormais être accusé de meurtre. Alors, ça change une accusation. Quand on s'est mis à fouiller, à savoir, puis en salle de cours, on a appris que l'accusé avait seulement 2 ans quand sa mère, c'était une trafiquante d'héroïne à ce moment-là et une consommatrice, avait été assassinée dans la résidence familiale en octobre 2013 du côté de Longueuil. Le crime avait été commis en pleine nuit. Il y a un suspect qui il avait sonné à la maison et avait abattu sa mère là, le temps d'ouvrir la porte. Et voilà que la victime de 35 ans était décédée, vendeuse d'héroïne, comme je vous disais, en plus d'être consommatrice. Puis le meurtre était considéré à l'époque comme un règlement de compte lié au monde des stupéfiants. Il n'est toujours pas élucidé, ce meurtre-là. On a parlé aux voisins, on voulait connaître un peu comment ça se passait avec le jeune homme. Ce qu'on sait, c'est que son père, 51 ans, est un, en quelque sorte, criminel de carrière. Il est toujours derrière les barreaux depuis le début des années 90. Donc, il a passé plus que la moitié de sa vie derrière les barreaux. Et le jeune homme vivait chez sa grand-mère parce qu'elle a un peu rescapé. Hein. Elle a permis à son petit-fils, suite au meurtre de sa mère, d'essayer d'avoir une vie normale. Et c'était le cas. Ce qu'on dit de lui, c'est que c'était vraiment un petit garçon gentil. Tout le monde le connaissait dans le quartier. Il parlait à tout le monde. Mais il aurait commencé à prendre de la drogue et il se serait mis à plus parler à personne. Il aurait changé du jour au lendemain. Donc, c'est ce qu'une amie d'enfance de l'adolescent de 14 ans a confié là, aux médias. Donc, c'est l'information qu'on a pour l'instant. Comme je vous disais, ça sera certainement un dossier à suivre parce que je pense que tout le monde est un peu là-dessus depuis les dernières heures. Une autre nouvelle importante, percute 4 voitures de police dans une poursuite folle. C'est du côté de Rivière-du-Loup, mais entre Québec et Rivière-du-Loup, qu'il y a un conducteur qui était lourdement endommagé, qui a endommagé aussi plusieurs véhicules, qui a circulé à plus de 60 km mercredi matin, ce matin, et il a même reculé sur l'autoroute 20 entre Québec et Rivière-du-Loup. Vous voyez, c'est une conduite qui était erratique. Vers 5h30 du matin, les patrouilleurs l'ont intercepté. Ils ont vu la camionnette de style pick-up dans une bretelle de l'autoroute 20 ouest à la hauteur de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, puis on a voulu procéder à l'arrestation, mais l'homme dans la trentaine qui était seul a refusé de remettre ses documents aux policiers puis a filé sur l'autoroute 20 en direction de Québec. Il a été arrêté après 1h30, mais ça encore là, on est dans le dossier. Diverses accusations pour lui. Là. Au total, l'homme a endommagé 4 véhicules de patrouille, dont certaines très lourdement. Personne n'a été blessé dans l'histoire, mais il est détenu. Il sera rencontré par les enquêteurs aujourd'hui. Là. On s'expose à des accusations de fuite, de conduite dangereuse également, puis d'autres accusations qui pourraient suivre au cours de l'enquête.
Merci beaucoup, Pascal. C'est bon. On va passer immédiatement à Marc Rangé parce que tu sais, Pascal, que Marc est un homme très prisé aujourd'hui oui. avec ce qui se passe à Montréal. Je l'ai vu ce matin dans le même studio que Mario Dumont. Là, il m'a texté, il m'a dit « Jeff, j'ai des demandes partout. » Donc, on est choyé de l'avoir avec nous. Marc Rangé, conseiller stratégique chez Ryan Affaires et spécialiste en relations de travail dans les médias. Comment ça va, mon ami?
Hey, salut Jeff, ça va bien. Écoute, peut-être populaire, mais pas toujours très, très apprécié par les opinions.
Ouais, mais ça défend. Ça défend qui écoute Marc et dans quel camp il se range. Mais ce que j'aime pour toi, c'est que tu as une franchise et tu es capable justement de saluer les bons coups des deux côtés, que ce soit du côté syndical, que du côté patronal ou même du côté du gouvernement. Donc, c'est pour ça que j'adore te parler, Marc Rangé.
Ah, t'es bien fin.
Yes. Hey, Marc, je fais écouter Soraya Martinez Ferrada, la mairesse de Montréal, ce qu'elle a demandé ce matin au syndicat des chauffeurs d'autobus du STM.
Donc, la demande que je fais aux chauffeurs, c'est de se manifester aujourd'hui. J'ai un appel de prévu un peu plus tard avec le ministre Boulay. On va voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines heures au niveau des chauffeurs. Mais je répète et je réitère, comme j'ai dit au syndicat de l'entretien, on doit absolument arrêter de prendre en otage cette ville. Et une grève complète cette fin de semaine, pour moi, n'est pas envisageable.
Là, Marc, il y a de la pression sur le syndicat des chauffeurs, il y a de la pression sur le syndicat des opérateurs de métro depuis que, tard hier soir, le syndicat de l'entretien a décidé de mettre fin à sa grève.
Oui, le syndicat de l'entretien, c'est une bonne chose qui a suspendu sa grève. Je disais, tu le sais, depuis quelque temps, ils s'en vont dans le mur. Ça va juste précipiter l'adoption de la loi spéciale. Puis pour eux, ce qui les attendait manifestement, c'était un arbitrage qu'un tiers vienne trancher. Fait que j'écoutais le président du syndicat de l'entretien ce matin. Puis hier, il avait déjà un peu annoncé, en tout cas, on pouvait lire entre les lignes, mais ce matin, c'était vraiment de dire on veut éviter cet arbitrage-là, puis donner une chance à la négociation. Puis tu sais, je veux dire, dans toute négo, à un moment donné, il ne faut pas s'entêter quand des moyens ne fonctionnent pas. Il faut être capable de relâcher, de lever le pied un peu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, j'ai toujours départagé l'approche de ces deux syndicats-là. Du côté des chauffeurs, une journée de grève en 38 ans. Une. Là, en fin de semaine, 15 et 16, il est prévu deux autres journées. Mais eux, à la différence aussi, c'est que leur table de négo progresse bien. Donc, quand j'entends la déclaration de la nouvelle mairesse de Montréal, c'est correct là, qu'elle met de la pression sur les partis, mais elle peut pas ne pas savoir que ça progresse quand même bien du côté du syndicat des chauffeurs. Même la directrice générale de la STM le dit que ça progresse bien. Donc, tout porte à croire qu'il peut se passer des choses avant samedi, dimanche. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de déclarations actuellement un peu du côté des autorités pour la galerie un peu. Qui va se prendre le mérite si jamais il y avait une entente du côté des chauffeurs? Le ministre Boulay, j'ai réécouté encore, là, qui disait est-ce qu'il y aurait un baillon ou pas pour faire devancer l'application de sa loi pour faire en sorte qu'il pourrait imposer plus rapidement plus de services? Il dit on va s'adapter en fonction des faits réels. Donc, lui aussi, si jamais il y avait une entente du côté des chauffeurs dans les prochains jours, prochaines 24 heures, avant les 15 et 16, lui va essayer de se l'approprier un peu puis de pointer du doigt Québec solidaire qui n'a pas voulu accélérer l'adoption de sa loi. Fait que, bref, la mairesse, du côté du ministre aussi, mais en bout de ligne, mon message, Jeff, là, c'est qu'il reste toujours un droit à la grève au Québec. Puis dans le cas des chauffeurs, on peut-tu dire qu'ils n'ont pas abusé depuis 40 ans? Fait qu'à un moment donné, laissez-les un peu progresser puis négocier. Puis il peut arriver n'importe quoi là aujourd'hui, hein, parce que le syndicat des chauffeurs pourrait, avec la STM, tant et aussi longtemps que le tribunal administratif du travail n'a pas rendu sa décision en fonction du code du travail actuel sur à ce qu'il lui suggérait de mettre plus de services en fin de semaine. Les deux, le syndicat des chauffeurs peut dire à STM, écoutez, on va nous offrir en fin de semaine. Un peu l'entretien qui vient dire, je fais ma grève, les chauffeurs pourraient très bien dire, nous, là, ça progresse notre table de négo, on va offrir des services minimaux par nous-mêmes en fin de semaine, on va s'entendre avec la STM là-dessus. Tout peut arriver.
Monsieur Ranger, si jamais on arrivait là, à trancher que c'est un fait besoin essentiel, là, que c'est vraiment la Société de transport de Montréal, puis peut-être même, si on commence à regarder partout au Québec, que le transport en commun est jugé essentiel à une ville. Seriez-vous d'accord avec ça? Parce que assurément que ça vous met une épine dans le pied pour des grèves. La chose étant, au niveau d'une société de transport, j'ai l'impression que vous auriez eu énormément de citoyens derrière vous. Et en plus, vous pourriez plaider. Regardez nos conditions, regardez comment on travaille, regardez ce qu'on réclame, parce que justement, on est essentiel à la société. J'ai l'impression que les citoyens auraient été plus derrière vous versus ankyloser leur quotidien comme en ce moment.
Bien, les citoyens ne seraient pas derrière moi, j'ai plus de fonction.
Oui, absolument, mais en termes de syndicat.
Oui. Mais la loi du ministre Boulay, moi, je dis que celle qui va rentrer en fonction tôt ou tard, moi, ce que je dis, c'est qu'elle restreint trop le droit de grève. Elle va, le débat que vous soulevez, là, elle va permettre d'avoir davantage de services. À Québec, la même chose, parce que là, ça va être la notion de service pour assurer le bien-être de la population. Et là, il va y avoir les critères de sécurité économique, environnementale, sociale, les personnes démunies. Donc, ça va hausser la barre beaucoup partout des services, dans les services publics, particulièrement le transport collectif, avec cette loi-là. Et puis, il y a l'autre pouvoir qui pourrait être d'ordonner un arbitrage de différent. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut un équilibre. Moi, je suis d'accord. Fait que je vais répondre à votre question. Moi, j'aurais été d'accord qu'il y ait un débat pour, quand on n'attend pas qu'arrive une grève, pour voir comment on peut peut-être assurer des meilleurs services essentiels à Québec aussi, dans le transport collectif, de trouver un juste milieu. Mais là, ce que je crains avec cette loi-là, personnellement, c'est que ça risque de complètement, dépendamment des, mais surtout dans le transport collectif, de donner tellement de services minimaux que finalement, il n'y aura plus zéro pression. Puis, c'est un équilibre, hein, les relations de travail. Mm-hmm. Et puis, je reviens là, une journée en 38 ans, les chauffeurs de Montréal, laissez-les un peu négocier. Je veux dire, c'est pas, ils n'ont pas souvent exercé de rapport de force. Fait que, bref, mais de toute façon, cette loi-là va entrer en vigueur tôt ou tard. Elle va être contestée. Elle sera pas contestée dans son ensemble. Elle va être contestée, par exemple, à Québec. S'il y avait un autre conflit, réseau de transport de la capitale, puis qu'à un moment donné, le tribunal administratif du travail dise service complet, là, quasiment, là. Service à 80%. Mais ben, là, les syndicats vont contester, vont dire, ben, c'est beaucoup trop, on n'a pas de rapport de force.
Marc, je suis très content que tu nous mentionnes que c'est une journée de grève en 38 ans parce qu'honnêtement, ça modifie, moi, mon opinion publique. Là, je me rends bien compte que les chauffeurs de la STM n'ont pas abusé de ceci. Marc, ceci dit, on est devant les faits que le gouvernement a instauré une loi spéciale pour les médecins un vendredi. Aujourd'hui, on est mercredi 13h39. Crois-tu que le gouvernement va attendre à la dernière minute et justement laisser l'étape de négociation avancer? Parce que peut-être que c'est moi qui ai mes lunettes roses, mais on dirait que j'ai confiance que ça va se régler compte tenu de l'urgence de la situation.
Ouais. Bien, moi, je vais faire une prédiction. D'abord, le ministre, c'est sûr qu'il va attendre. De toute façon, à partir du moment où Québec solidaire ne donne pas son accord, il va y avoir des débats. Mm-hmm. Puis il vient de dire que le baillon, là, il n'est pas chaud à ça. Fait que veut pas, il va y avoir des débats parlementaires. Mais le fait qu'il a déclaré qu'il suivrait de près le dossier, donc ça montre qu'il sait qu'il ne peut pas bouger trop vite. Il sait que le 30 novembre, dans le pire des cas, sa loi va être adoptée. Mais moi, je pense qu'il pourrait arriver peut-être vendredi. C'est une hypothèse de règlement du côté des chauffeurs à soumettre à leurs membres par le médiateur, comme c'est arrivé au réseau de transport de la capitale. Pourquoi je dis ça? Que ce, même si les partis s'entendaient, admettons qu'ils s'entendent pour 17% sur 5 ans d'augmentation de salaire. La STM qui a tenu la ligne dure à date à 12% à peu près, là, je résume, 12% à peu près. Le syndicat qui avait des demandes qui sont plus importantes, il faut qu'il soit capable de se présenter à l'Assemblée générale puis faire passer son entente. J'ai toujours dit que ce type d'entente-là passe mieux quand c'est un tiers qui fait la recommandation. Fait que moi, je peux me tromper, mais je pense qu'il pourrait y avoir une proposition de règlement à la dernière minute, et puis qui pourrait faire en sorte que la grève soit suspendue parce que les chauffeurs iraient la présenter à leurs membres. Dans le cas du syndicat d'entretien, c'est une négociation beaucoup plus complexe parce qu'il y a les enjeux de sous-traitance. Ça va être plus long, mais par leur décision de suspendre la grève, ils ont évité le coup de masse d'un arbitrage qui aurait été imposé. Et là, le ministre, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de nouvelle grève là, chez l'entretien à Montréal, le ministre ne peut pas imposer un arbitrage là, parce que ça prend deux critères. Le premier, c'est une grève. Là, ils l'ont suspendu, leur grève. Puis le deuxième, préjudice grave ou irréparable à la population. Quand t'as pas de grève, t'as pas ce préjudice-là. Fait que, ils ont choisi la stratégie de repli pour mieux négocier.
Marc Rangé, c'est toujours un bonheur de te parler sur les ondes de Boulevard 102. Marc Rangé, conseiller stratégique chez Ryan Affaires publiques et spécialiste en relations de travail dans les médias. Puis je sais que tu ne seras pas loin de ton téléphone pour le reste de la semaine. Je pense qu'on va devoir se reparler dans ce dossier-là.
Il n'y a pas de trouble. J'avais encore une marge de manœuvre de 2 minutes, là, mais il n'y a pas de trouble.
Ah, je te laisse partir tout de suite. Allez, alors, prends ton souffle, Marc. Tu donnes des entrevues depuis 6 heures à matin, là.
Hey, salut à vous deux, merci beaucoup.
Salut Marc Rangé. Marc Rangé, j'adore parler avec lui. On a toujours droit de la façon qu'il explique les choses. J'aime beaucoup. Un autre sœur qui nous écrit, la nouvelle mairesse veut montrer sa fermeté en début de mandat. Je vois ça positivement en parlant de Soraya Martinez-Ferrada. Je suis d'accord. Je trouve que ça fait un beau changement de leadership à Montréal.
Ben, assurément que, je veux dire, elle a fait un genre de revue de ce qui est prioritaire.
Oui.
Puis ça, ça en fait partie. Mm-hmm. Alors, allons-y immédiatement. Je t'ai demandé si elle ne travaillait pas sur le dossier avant même d'être élue.
Exactement. Charles-Étienne, qui est aussi surpris que moi avec le fait, il y a juste eu une journée de grève des chauffeurs de la STM en 38 ans, alors qu'on dirait qu'à Québec, au RTC, il y en a à chaque renégociation. En effet, puis c'est une des raisons pourquoi le gouvernement pousse sa loi 14. C'est parce qu'à Québec, le tribunal du travail a dit le transport en commun, ce n'est pas essentiel. Mm. Fait qu'on s'en va en grève, puis on n'a pas... C'est toute la population qui vit l'impact. Je crois crois que ces grèves-là vont être moins présentes lorsqu'on va être obligé de donner un petit peu plus de services essentiels.
Absolument. Puis c'est-tu quoi? J'aimerais savoir où est-ce que ça a eu plus d'impact. J'ai mon petit doigt me dit Montréal. Parce qu'ils sont déjà arrimés. Ils sont déjà dans l'engrenage d'un transport en commun ultra efficace, normalement.
Ben oui.
Donc, pour plusieurs, c'est même pas de voiture, c'est rien.
Plein de gens qui vivent sur l'île de Montréal qui n'ont pas de voiture.
Fait que ça a peut-être été moins souvent, donc une seule fois, mais ça a fait ses forts, par exemple.
Ah, t'as entièrement raison, Pascal CV. On fait une courte pause, puis par la suite, Pascal, on va revenir avec un peu de sport. Faut que je te parle de Joël Armia, de cet ancien joueur du Canadien qui a fait un retour marqué au Centre Bell hier dans une déconfiture du Canadien 5-1 contre les Kings de Los Angeles. Donc, on se jase de ça, puis... quand je parle de sport, j'ai soif, me semble, qu'on va parler d'une bière. On a-tu une bière, nous autres, ça?
Une belle petite bière pour la bonne cause.
Ouais, une belle petite bière pour la bonne cause. Hein? On se parle de ça immédiatement après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102. On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Une émission qui tire bientôt à sa fin, 13h49. On va suivre le retour de Gravel. Pour ceux qui se posent la question, Audrey est en santé?
Elle est là!
Elle est là! On aura Denis avec Véro et Audrey, le trio de feu. Marceau le soir par la suite de 18h à 19h. Demain matin, comme à chaque matin, à 6h, c'est Marceau le matin. Avec Yannick Marceau, moi-même et Max Larouche. Et le point de Max avec Max Larouche qui précède notre émission d'En jase avec moi et Pascal CV. C'est votre programmation sur Boulevard 102. On a des excellents commentaires par texto. Merci beaucoup de nous suivre. Merci d'être avec nous, chers auditeurs. Et là, on parle à vous parce que Pascal CV, moi j'aime la bière. Moi j'aime les bonnes causes. Puis là, ben, on a fait un 2-pour-1 avec la Gravel édition 10 ans de Boulevard.
Puis tu sais, c'est le temps des fêtes qui arrivent, on se le cachera pas, on va en avoir besoin d'une petite bière, d'un petit quelque chose dans le frigo quand la visite arrive, qu'elle soit prévue ou impromptue. Ben, Boulevard 102.1, pensez à tout ça. 10 ans, on a le goût de fêter ça avec vous, puis on n'allait pas fêter ça seul. 10 ans avec une bière exclusive, la Gravel édition 10 ans Boulevard. Ça, c'est brassé en collaboration avec Malco, une brasserie de Charlebourg, ici, d'ici, là, reconnue pour ses produits accessibles et de qualité. Alors, c'est une blonde lager à 4,4%. C'est léger. C'est assez doré, c'est vraiment rafraîchissant. Puis il y a la fameuse mousse blanche persistante là, sur le dessus. Vous allez avoir certainement beaucoup de plaisir avec cette bière-là. Et ça nous tient à cœur de le faire effectivement au profit de la bouchée généreuse. Ça veut dire que pour chaque bière vendue, il y a une partie des profits qui est directement remise à la bouchée généreuse. C'est un organisme qui aide à nourrir les familles dans le besoin. Alors, une bière deux coups.
Oh, j'adore!
Une bière deux coups, mesdames et messieurs.
Let's go!
Allez vous la chercher, puis prenez des packs, parce que je sais que vous allez l'apprécier. Elle se boit très bien, puis surtout, elle est en quantité limitée. Il n'y en a pas une autre bière sur le marché qui est une bière deux coups. Il n'y en a pas une autre bière sur le marché qui va donner directement à la bouchée généreuse quand vous l'achetez. Vous allez l'acheter dans les dépanneurs Chaloux, super partenaire comme d'habitude, on les adore, et à la brasserie Malco, bien sûr, au marché Jean Talon de Charlebourg.
Alors, allez-y, procurez-vous la Gravel, c'est pour une bonne cause et vous ne la regretterez pas. Elle n'est pas très forte en alcool, donc c'est une bière parfaite, notamment pour écouter du hockey du Canadien, mais hier, ça n'a pas bien été pour Montréal.
Et là, c'est la course, Hudson, Armia tire le but! Joël Armia! Je ne sais pas s'il a mis quelques dollars sur le tableau. Je ne sais pas si ça se fait encore, ça marque.
Oh, ça se fait encore.
Et Joël Armia va donner un coup très dur à son ancienne équipe.
Ça, Pascal, c'est quoi les quelques dollars sur le tableau? C'est les joueurs, quand ils jouent contre leur ancienne équipe, et c'était le cas de Joël Armia hier, qui a passé plusieurs saisons avec le Canadien de Montréal.
Oh.
Donc, ils mettent des dollars, il n'y a pas ça sur le tableau, là, mais ça tape dans le vestiaire, dans le fond. Là. Fait que l'amateur Armia, il dit « OK, boys, okay, là, 500 pièces, puis si on bat l'équipe à soir, je paye la tournée au bar. »
OK, là, attends, là, je ne vais pas avoir l'air niaiseuse, mais je vais la poser la question. C'est-tu vrai, ça?
Oui, c'est vrai. Ça se passe comme ça.
De l'argent pour de vrai.
C'est ça, mettre de l'argent pour de vrai.
Ça se prend au commentateur sportif, donc c'est connu, puis une fois de temps en temps, ça se dit.
Oui, t'es comme moi. Joël Armia, là, il a joué exactement 7 ans avec le Canadien. Là, hier, il était de retour au Centre Bell dans l'uniforme des Kings. La foule qui lui a réservé une belle ovation, notamment, donc chapeau partisan du Canadien. Et là, les Kings l'ont emporté 5-1. Fait que ça veut dire que Joël Armia avait mis de l'argent sur la table en disant « Hey! » Les gars, si on bat le Canadien, à soir, quand on va aller au bar, c'est moi qui paye la tournée. C'est pour motiver ses coéquipiers.
Est-ce que ça fête encore autant?
Ça fête beaucoup moins que dans le temps.
OK, mais là, dans le temps, on recule de pas si longtemps.
Oui, c'est ça. Ça fête moins dans le sens que tu sais, les gars vont se laisser aller quand ils ont une journée de congé le lendemain. Dans la Ligue nationale, souvent, à moins que tu joues le dimanche, ta journée de congé dans la semaine va être le dimanche.
Mais on a resserré les règles.
Oui, bien oui, on a resserré les règles et les joueurs se sont resserrés eux-mêmes parce que maintenant, il faut tellement que tu sois en forme. Peut-être ton corps, ouais. C'est Sidney Crosby qui disait ça. Il disait, mon corps, c'est mon entreprise.
Je suis mon produit.
C'est ça. Fait que je peux pas toujours être dans l'alcool puis dans ma bouffe.
Mais il y en a qui réussissaient quand même. Je veux dire, Éric Lapointe a fait sa carrière à être sa brosse, puis il arrivait sur la scène, puis l'adrénaline faisait tout.
Exactement, mais dans le sport, c'est différent. Il y a Alex Ovechkin, qui est un petit moineau à part, là, que, il arrive toujours au camp d'entraînement, on dirait un petit 15-20 livres de trop, puis à un moment donné, pendant la saison, floup, il prend son envol. Parlant d'envol, Pascal, ce joueur-là a marqué son 400e but hier. Now the lead pass, moving in on Hill. David Pastrnak des Bruins de Boston a marqué son 400e but en carrière. Lui, c'est le seul qui reste à Boston du fameux trio Pastrnak, Bergeron, Marchand qui ont fait l'appui, le beau temps avec les Bruins. Donc, 400e but hier devient seulement le troisième joueur tchèque de l'histoire de la Ligue nationale à marquer 400 buts. C'est Jaromír Jágr et Patrick Elias, un ancien des Devils du New Jersey, les deux autres à l'avoir réalisé. Puis pourquoi je t'en parle? Parce que les Bruins sont surprenants depuis le début de la saison. Ils sont à 22 points, à égalité avec le Canadien au premier rang.
OK, alors vraiment, ça va être très raide, je veux dire, dans le retour avec Denis Gravel.
C'est
ça. Fans des Bruins, puis les filles, ben au moins, ils sont pas si fans de hockey que ça, mais quand ils le font, c'est pour le Canadien.
Oui, puis là, j'ai vu Denis, les yeux sont rééliminés à matin quand on en a parlé dans le... quand on a parlé dans le petit stop. Et samedi soir, c'est un match Canadien-Bruins. Ça, c'est une grosse rivalité. Ça va être tellement intéressant à suivre comme match. Il va falloir en profiter. Nous, on s'en parle demain à midi, Pascal?
Sans faute.
Parce qu'on n'est pas rendu à samedi. On va être à jeudi demain.
Non, puis j'aurais nécessité une heure supplémentaire dans ces émissions-là, tellement il y a de nouvelles. Puis que la politique nous tient les mains liées un peu.
C'est ça.
Ça a brassé même aux États-Unis.
Exactement. Donc, on va... Ouais, Donald Trump,
il était au courant, il paraît, des filles autour de Epstein et tout ça, mais on en parlera demain.
Oui, on en reparle demain avec un immense plaisir. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Merci infiniment d'être à l'antenne de Boulevard 102.1. Et on se dit à demain midi pour l'émission On en jase. Merci beaucoup, Pascal Séveille.
À demain.
Salut, à demain.